Et tout de suite, voici donc une archive de Radio Courtoisie. Il s'agit d'un libre journal de Serge de Becketch du 15 mai 1996. Excellente nuit à tous à l'écoute de nos programmes. Il est 2h. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Becketch, dirigé en cette première partie par Serge de Becketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 15 mai 1996, rediffusé dimanche 22 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Moi, je ne me lasse pas de cette musique, parce que maintenant, à force de l'entendre, ça fait quand même des centaines de fois qu'on l'entend, on découvre des finesses de composition, de, à la fin...
D'exécution.
D'exécution.
De sentiments, peut-être, ah, même.
Mais oui, c'est plein de sentiments, comme toute la musique militaire est pleine de sentiments. C'est une espèce de vibration, comment dirais-je, au niveau du cœur.
Hein? Moi, j'aime la musique militaire. De toute façon, vous prêchez une convertie.
La musique militaire est à la musique ce que la médecine militaire est à la médecine.
Ils vont tous se faire soigner au Val-de-Grâce, hein?
Ah oui, donc est-ce qu'on est bien soigné au Val-de-Grâce?
Ah, écoutez, tous les chefs vont au Val-de-Grâce.
Moi, j'étais soigné par le docteur Gaillard au Val-de-Grâce. C'est un drôle de Gaillard. Grand médecin, voilà, grande classe. Vraiment, très bien. Rien à dire. Donc, cet épisode de médecine militaire et de cet hommage à l'armée ayant été rendu.
Et à la musique.
Et à la musique. Alors, nos invités de ce soir, le pasteur Blanchard et Pascal Rey, qui sont les responsables du secteur social du Front National. Secteur social, les initiales, c'est un peu gênant quand même.
Oui, enfin, c'est pas prémédité. Hein.
Ah bah, j'espère quand même. Enfin, bon, ensuite, alors on va parler de ça, on va parler de social. Samuel Maréchal a dit que le pasteur Blanchard était le Coluche de Le Pen. Je sais pas, moi j'aurais plutôt dit que vous étiez l'abbé Pierre, mais dans aucun des cas c'est un compliment.
Un peu des deux peut-être.
Ensuite, on recevra Louis Pasquier, qui sursaute quand on dit son nom, il doit avoir quelque chose à se reprocher. Alors Louis Pasquier, bon ben vous le connaissez, on l'a déjà reçu, il est écrivain. Il a écrit un livre d'écologie dont on a parlé, qui s'appelle Écologie traditionnelle. Et puis il a écrit un livre dont on avait déjà parlé aujourd'hui, mais on va en reparler aujourd'hui parce qu'il a une certaine actualité. C'est un livre qui s'appelle Rencontre avec, et qui est un récit de rencontre, comme son nom l'indique, avec Danielou, Alain Danielou, le frère du cardinal. Chevalier de Lubitsch, hein, et puis Gurdjieff. Et on va parler ce soir de Gurdjieff parce qu'il semble qu'il soit un petit peu en train de revenir sous les projecteurs. Et j'ai entendu dire d'ailleurs que Louis Powells préparait un nouveau livre sur Gurdjieff, différent naturellement du premier qu'il a publié il y a 30 ans. Voilà, et puis ensuite Cécilia viendra. Alors, Avant, on va faire, si vous voulez, une petite revue de presse. Moi, je lis Libération. Et alors, je fais une chose qui se pratiquait dans le temps, enfin, que nous recommandaient les bons professeurs, il faut lire la presse, il faut lire les journaux et lire les livres avec un dictionnaire à portée de la main, parce que il faut se référer à ce dictionnaire quand on ne comprend pas certains mots. Alors, je lisais Libération, c'est Libération du vendredi 10 mai, et je suis tombé sur un article dans la rubrique Monde, intitulé « Divorce entre la Finule et Tsahal », sous-titre « Depuis le massacre de Cana, les casques bleus se méfient d'Israël ». Alors c'est du correspondant de Libération à Jérusalem qui s'appelle Christophe Boltanski. Et donc j'ai lu cet article qui explique des choses tout à fait intéressantes. Et Simone Pérez, alors il y a cette phrase qui commence en fin de deuxième paragraphe et qui dit « Simone Pérez a déclaré hier qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Nations Unies. Deux points, ouvrez les guillemets. Ce que disent les goyim ne compte pas, seul importe ce que font les juifs. Point, fermez les guillemets. » Alors, moi, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai regardé goyim. Il n'y a pas plus de goyim que de beurre en broche. Dans le Larousse, dans le Robert non plus. Dans le Littré, pas plus. J'étais bien embêté. Et j'ai téléphoné à un ami qui connaît un peu ces questions-là. Je lui ai dit, mais goyim, qu'est-ce que ça m'a dit? Goyim, c'est le pluriel de goy. Alors, je lui ai dit, ah bon. Voilà, déjà on avance, et maintenant goy, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit ça, mon vieux. C'est très compliqué. Alors j'ai cherché, je me suis dit que le mieux c'était d'aller voir dans des livres dont on pouvait supposer que les auteurs connaissaient l'hébreu, ou le yiddish, ou le séfardi, toutes sortes de langues. Et alors, comme j'avais un livre d'Arthur Kessler, qui est un écrivain de nationalité britannique et d'origine hongroise, je me suis dit que on allait certainement trouver la réponse dans Kessler. Surtout qu'il faut choisir ces bons auteurs, parce que maintenant, si vous voulez, c'est un peu délicat. Même l'abbé Pierre, si vous citez l'abbé Pierre, vous risquez d'avoir des problèmes. Pourtant, l'abbé Pierre, il y a un an, c'était l'idole des jaunes.
Ah oui, il y a un auditeur qui vous demande si c'est vrai que vous allez recevoir l'abbé Pierre dans les prochaines semaines.
Ben d'abord, il faudrait savoir où il est, l'abbé Pierre, parce qu'apparemment, ils l'ont goulagisé ou ils l'ont mis dans un établissement
de récupération,
asile psychiatrique, comme on faisait à l'époque de Staline, et même après, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il a radicalement disparu. On pourrait peut-être lancer un appel, d'ailleurs, si on cherche sept religieux et un abbé Pierre. Alors les sept religieux, on a une vague idée de l'endroit où ils sont, mais l'abbé Pierre, vraiment, là, on se perd en conjoncture. Comme disait... qu'est-ce qu'il disait, on se perd en conjoncture?
Je ne sais pas.
Je ne sais plus non plus. Enfin, c'était un imbécile, probablement. Donc, on ne sait pas du tout où est l'abbé Pierre. Moi, je pense qu'on l'a mis dans un asile. À juste titre, d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment être fou pour prendre les positions qu'il a prises. Hein? Si, c'est le meilleur moyen d'aller en tôle ou à l'asile. Il y est, voilà.
Comme donc, a dit si Jean-Marie Le Pen, il va savoir ce que c'est que...
Il va savoir ce que c'est que la persécution.
Que la persécution.
Et là, il est en train de savoir.
Forte parole.
Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc l'abbé Pierre n'est plus une référence maintenant. Garaudy non plus. Il y a quelques années, Garaudy, on ne jurait que par lui. C'était un communiste. Donc tout ce qu'il disait, c'était parole d'évangile. Hein? Maintenant, c'est fini. Garaudy est mort. Plus de Garaudy. Allez, couche Garaudy. C'est embêtant tout ça. On ne sait plus à qui se fier. Alors il faut vraiment aller aux sources et tout. Alors moi, j'ai trouvé Arthur Kessler. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, d'abord, il n'est pas français, donc il risque rien. D'abord, il est mort. Donc, déjà, là, il est tranquille, il est à l'abri. On est sûr qu'il dira plus de bêtises. Ensuite, il n'est pas français. Ensuite, il est anglais. Ensuite, il est d'origine hongroise, et puis il est israélite. Donc il n'est pas du tout suspect. Hein? Il est en plus, il était vigoureusement sioniste, il a été communiste, il a été anti-nazi, il a été partisan des républicains espagnols, il a même été condamné à mort par Franco, ce qui prouve que c'était forcément un type très bien. Et sur la fin de sa vie, il est devenu anticommuniste, mais ça, bon, anticommuniste, mais non fanatico, comme disent les Italiens. Et il avait une position sur la question qui était très intéressante. Il disait, les juifs sont comme tout le monde, seulement un peu plus. C'est dans le dictionnaire des auteurs, hein, je vous signale. C'est pas un propos interdit. Et en plus, c'est Kessler qui disait ça. Et alors, il a écrit un livre qui s'appelle « L'ombre du dinosaure », qui n'a rien à voir avec Spielberg. C'est pas Jurassic Park. L'ombre du dinosaure. Et alors, dans ce livre, il définit, enfin, j'ai trouvé ce que c'est que le goy. Alors voilà, je lis. Je lis Kessler, hein, je précise parce que... Le mot hébreu de Goy qui désigne le nom juif ne signifie pas simplement païen ou incroyant. Il ne désigne pas une âme susceptible de salut ou un corps susceptible d'être admis dans la communauté après avoir acquis la vraie foi. Le Goy correspond plutôt aux barbares des Grecs, à nos indigènes ou aborigènes. Il se réfère à une distinction non pas religieuse mais raciale et ethnique. Malgré l'injonction assez rare et tiède d'être bon pour l'étranger en Israël, le Goy est traité dans l'Ancien Testament avec un mélange d'hostilité, de mépris et de pitié, comme un être légèrement au-dessous de l'humain. Alors je dis pour les amateurs de citations que c'est à la page 138 d'un livre qui s'appelle « L'ombre du dinosaure ». Et alors, quand j'ai lu ça, que le Goy était aux yeux... de M. Kessler et de ses membres de sa communauté, un être légèrement au-dessous de l'humain, je me suis dit, ça m'a rappelé une phrase qui a été prononcée il y a quelques semaines par un rabbin qui expliquait qu'il y a plus de différence entre un juif et un goy qu'entre un goy et un animal. Et je me suis dit qu'au fond, là, il y avait une espèce de régularité dans l'appréciation. Donc maintenant, on sait exactement ce que voulait dire M. Shimon Peres quand il disait, je rappelle la phrase citée par Libération, « Ce que disent les goyim ne compte pas, seul importe ce que font les juifs ». Au fond, ce qu'il disait, c'est que ce que font ou ce que disent des êtres légèrement au-dessus de l'humain, au-dessous de l'humain, des êtres plus proches de l'animal que du juif, n'a aucune importance. Et là, on est obligé de dire que vraiment, M. Shimon Peres a parfaitement raison et qu'il faudrait vraiment être un foutu antisémite pour voir la moindre trace de racisme dans de tels propos. D'ailleurs, on voit vraiment pas comment M. Shimon Peres, qui est de gauche, pourrait être raciste. Donc, quand il dit que les non-juifs sont des êtres en dessous de l'humain et que leur propos n'a strictement aucune importance... Eh bien, c'est tout simplement une manifestation de bon sens. Il faut bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vite savoir où est l'abbé Pierre, parce que vous allez aller le retrouver. Vous voyez ? Il faut savoir maintenant ce qu'il faut savoir.
Hein ? CQFD.
CQFD. Mmh. Mais il ne faut surtout pas croire que c'est raciste. Il n'y a pas de raciste. D'ailleurs, c'est même pas possible. De même qu'il faudrait être fou pour penser que le dernier numéro de l'excrément... Ah, à chaque fois, je me trompe, c'est marrant, c'est, c'est l'événement...
La langue qui fourche, on n'y peut rien.
Ah, c'est bête. Hein. L'événement, le dernier dossier publié par l'événement, il faudrait être fou pour croire qu'il y a la moindre once de racisme. D'abord, ils se sont mis à neuf, ils ont fait un dossier sur les Français. Ils se sont mis à neuf. Et c'est, je vais donner les noms, c'est mesdames et messieurs Grand, Linares, Légas, Domenac, Ulrich, Picard, Askolovitch, Assouline et Safran. Et le dossier est placé sous le patronage, ou plutôt sous l'invocation de Volinsky. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun risque de racisme derrière ça. C'est impossible qu'il y ait la moindre once de racisme dans ce papier. Et alors, donc, on peut se référer, c'est forcément un papier sérieux, c'est un dossier qui fait 10 pages avec des photographies, des articles et des titres. Alors je me suis contenté de... J'ai lu le dossier, il est intéressant. C'est difficile d'arriver à la fin sans tomber en apoplectique, sans faire une crise de nerfs ou une... Mais enfin, quand on est quelqu'un comme moi de zen, on peut arriver jusqu'à la fin de l'article. Et les conclusions de cet article sont d'une simplicité, si j'ose dire... Si, je dis bien, si j'ose dire, évangélique. Il y a des mots qu'on fera mieux de s'abstenir d'employer dans certains mots, enfin, dans certains cas, mais là, ça s'impose. Alors, en gros, on pourrait pratiquement reprendre le fameux mot de Kessler que j'évoquais tout à l'heure. Les Français sont comme les autres animaux, c'est un peu pas, simplement un peu plus. Vous voyez ? Donc, une fois qu'on a lu ce dossier, on s'aperçoit que, d'après messieurs et mesdames, Grand, Linares, Légas, Domenac, Ulrich, Picard, Skolovitch, Assouline et Safran, les Français sont braques. Braques, c'est-à-dire fous. Ils sont sales. Ils sont crédules, superstitieux, gros. Là, je peux vraiment pas dire le contraire. Chauvin, c'est vrai aussi. Ivrogne, c'est faux. Enfin, en ce qui me concerne. Mais je suis pas complètement français, faut dire. Ivrogne, goinfre, chauffard, macho, radin, bête, impuissant et menteur.
Impuissant quand même.
Est-ce que le procès, est-ce que le
portant, ça me gêne beaucoup, je
veux dire. Ça vous gêne, monsieur Pasquier. Bon, écoutez, votre vie privée ne nous regarde pas. tout ça ne nous regarde pas. Mais alors voilà, alors je demande à mes auditeurs, est-ce que le portrait dressé par Grand Linares Legas, Domenech, Ulrich Picard, Skolovitch, Assouline et Safran, vous paraît acceptable? Est-ce que vous êtes content d'être considéré comme braque, sale, crédule, superstitieux, gros, chauvin, ivrogne, goinfre, chauffard, macho, radin, bête, impuissant et menteur? Si vous n'êtes pas content, écrivez, vous avez gagné. C'est la vieille phrase. Il y a une chose que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas content, c'est adhérer à une association qui s'appelle l'Association Générale contre le Racisme, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour la Défense de l'Identité Française.
La Griffe.
La Griffe, c'est 70 boulevard de Saint-Germain, dans le 6e
6 ou 7e
5e. 70 boulevard de... Bon, enfin, c'est dans Paris. C'est 70 boulevard de Saint-Germain. La Griffe. Là, c'est un truc qui défend les Français contre les racistes anti-français. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est pas du racisme. C'est que vous pouvez... Écoutez, vous imaginez, vous dites ça de n'importe qui ne soit pas français. Hein, vous dites ceux-là, par exemple, n'importe quelle population exotique, vous dites, oh, ces gens-là, ils sont sales, crédules, superstitieux, gros, chauvins, ivrognes, goinfres, chauffards, machos, radins, bêtes, impuissants et menteurs, et puis vous attendez les nouvelles de la LICRA ou du MRAP, et à mon avis, vous n'allez pas être déçus. Tandis que si on dit ça les Français, il n'y a aucun risque, pratiquement. Enfin, vous pouvez quand même donc adhérer à la Griffe, qui a besoin d'adhésion en ce moment, parce qu'elle gagne pas mal de procès. Quand même, elle fait assez souvent rentrer dans leur gorge les insultes de ces voyous, mais ça coûte cher ces procès, parce qu'il faut aller en cassation, toujours, puisqu'il n'y a à peu près que la Cour de cassation qui fonctionne d'une façon normale dans ce pays, et par conséquent, il faut aider la Griffe. L'adhésion est de 50 francs, c'est pas cher. 50 francs pour claquer le baigneur de gens qui disent que vous êtes braque, sale, crédule, superstitieux, gros, chauvin, ivrogne, goinfre, chauffard, macho, radin, bête, impuissant et menteur, c'est pas trop cher payé.
Non, c'est pas cher. Hein.
Je signale d'ailleurs au mauvais esprit que je suis vice-président de la Griffe, mais que c'est strictement bénévole. Là aussi. D'ailleurs, quand à force de faire des trucs bénévolement, je vais finir par me retrouver SDF.
On s'occupera de vous.
Hein?
On s'occupera de vous. On est là pour ça.
C'est pour ça que je vous en parlais. Donc adhérez à la Griffe. 50 francs, 70 boulevard de Saint-Germain, et vous pourrez botter le. Beauté, voilà, ce que vous voulez.
En touche, transformé.
Beauté en touche, merci. Merci, oui, parce que, ouf, il m'a retenu sur la pente fatale de l'escalade. Jolie forte, aussi. Nouvelle bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Il y a, hier ou avant-hier, deux types qui se baladaient sur les quais de la Seine, qui en ont attrapé un troisième. Ils lui ont volé son blouson, et comme le troisième protestait, ils l'ont jeté à l'eau. Et le pauvre, il s'est noyé. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu, alors là, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que c'est un an pratiquement après la tragédie du 1er mai, vous savez, où un jeune Marocain avait été jeté à l'eau par des voyous, et avait été noyé quelques dizaines de minutes après le passage du cortège de Jeanne d'Arc. Et naturellement, on avait tenté de faire porter sur le Front National la responsabilité de ce crime, au moins de cette faute. Et je me suis dit, ça va recommencer. Et puis, j'ai attendu, j'ai dit, le MRAP, la LICRA vont se mobiliser, ça va être l'horreur. Alors, rien du tout. Ah, mais rien. Personne n'en a parlé. Il y a un article... au fin fond de Libération, dans une petite colonne paumée entre une publicité pour des préservatifs et une adresse de Minitel porno, enfin vraiment un truc introuvable. J'ai dit, tiens, c'est curieux quand même, pourquoi? Alors j'ai cherché dans toute la presse, rien du tout, sauf dans le Figaro, il y a un petit papier qui nous dit, voilà, les agresseurs s'appellent Rolando Dos Reis et Karim Bigri, vous voyez, et le noyé il s'appelle Jean-Jacques Gobron. Alors évidemment, on comprend, c'est-à-dire le Gobron, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si Karim Ghibri, il a noyé M. Gobron, on va vraiment pas lui en vouloir. D'ailleurs, cet excellent camarade, très bon français et antiraciste, d'ailleurs, qui est M. Jean-Pierre Bloch, qui avait dit, parce qu'on lui dit, mais écoutez, pourquoi quand un arabe attaque un français, c'est pas un crime raciste, et quand un français attaque un arabe, c'est toujours un crime raciste? Ça tient pas debout, votre histoire. Pourquoi? Il dit, mais si, ça tient parfaitement debout. Car quand un arabe attaque un français, c'est pour le voler. donc c'est pas raciste. Donc si un Français attaque un Arabe, c'est pour des raisons de différence raciale, donc c'est bien un crime raciste. Alors moi je me suis dit que si un type avec le crâne un peu faible lisait ça, et qu'il avait envie de se faire un Arabe, il avait, après il fallait qu'il le vole, vous voyez. Comme ça on pourrait pas dire que c'est un crime gratuit. Mais heureusement, personne n'aura des idées aussi sottes que Grenu. Hein. Voilà, donc Monsieur Jean-Jacques Gobron, il est passé par perte et profit. Et c'est bien triste pour lui, pour sa famille s'il en a. Et Monsieur Rolando Dos Reis et Karim Brighi ne peuvent en aucun cas être accusés d'avoir commis un crime raciste. Surtout Monsieur Karim Brighi. N'est-ce pas ? Monsieur Juppé, autre nouvelle, alors ça c'est dans le Figaro Économique. Il y a deux papiers à la une, alors je montre à mes invités, vous voyez qu'ils sont voisins, ils sont dans les colonnes voisines. Il y a un papier qui est intitulé « Fonctionnaires, les effectifs au cœur du débat budgétaire ». Le gouvernement songerait à réduire quelques 10 000 emplois par an pendant 3 ans les effectifs de la fonction publique. Et à côté, il y a Finances, Banque publique, un terrible fiasco. Alors on lit l'article, premier article. Réunis au Palais Bourbon pour discuter de la stratégie budgétaire pour 97, députés et gouvernements sont entrés hier dans le vif du sujet. Comment et où trouver 45 à 60 milliards d'économies dans les dépenses de l'État? Bon sang, trouver 60 milliards d'économies, non. J'aurais du mal, hein. Même 60 centimes, j'arrive pas. Mais 60 milliards, là. Je préfère être à ma place que celle de Juppé. Et puis à droite, qu'est-ce que je vois? Alors moi qui ne suis pas Premier ministre, hein, je vois Banque publique, un terrible fiasco. Leurs pertes cumulées atteignent 138 milliards de francs en 5 ans. Coût pour les finances publiques, 83 milliards. Je me dis, bon sang. Vous ne croyez pas que si on fermait toutes les banques publiques, on pourrait récupérer les 60 milliards qui manquent? C'est une idée comme ça. Parce que la banque, c'est un travail fondamentalement, fondamentalement, je voudrais pas employer un mot désagréable, contraire à la morale. Parce que ça consiste à prater, en gros, ça consiste à faire travailler l'argent, ce qui est déjà très malhonnête, et ensuite ça consiste à prêter de l'argent à un taux, avec un taux d'intérêt. C'est-à-dire se faire rendre plus qu'on a prêté, c'est-à-dire gagner de l'argent sur quelque chose qui est un simple acte de solidarité. Et c'est interdit par toutes les religions qui se tiennent debout, qui ont un peu de morale, quoi. Les religions qui n'ont pas de morale, elles autorisent l'usure, mais les religions qui ont de la morale l'interdisent. Donc les banques, c'est quelque chose de profondément immoral. Alors que des gens privés face de l'activité bancaire, c'est leur droit. On ne peut pas les obliger à avoir une morale chrétienne. Vous avez des gens pour qui la morale chrétienne, ça ne veut rien dire, ils s'en foutent. Donc eux, ils peuvent ouvrir des banques. Mais qu'un État ait un comportement immoral, c'est scandaleux. C'est immoral. Voyez. Donc l'État ne devrait pas avoir d'établissement bancaire. Surtout quand c'est pour perdre du fric. Il faut vraiment, passez-moi l'expression, non, ne me la passez pas parce que je ne vais pas l'employer. Il faut être sot, hein. C'est mieux comme ça, monsieur Pasquier. À deux lettres près, on y était. Il faut être sot pour perdre de l'argent avec une banque. Vous pouvez demander, monsieur Rothschild, il n'a jamais perdu un rond avec les banques. Monsieur Lazare, il n'a jamais perdu un rond avec les banques. Monsieur Hervé, il n'a jamais perdu un rond avec les banques. Monsieur Schlumberger, ils avaient des banques, Schlumberger, les protestants, là?
Oui, bien sûr. Alors, voilà. Les Vergnes aussi.
Vergnes, ils n'ont jamais perdu d'argent avec les banques. Il faut vraiment s'appeler Père Levin pour perdre de l'argent avec une banque. Et puis en plus, ils ne perdent pas 3 sous. Hein. Ils perdent 138 milliards de francs en 5 ans qui coûtent aux finances publiques 83 milliards. Entre nous, ça veut dire qu'il y a 55 milliards qui sont perdus pour les déposants. Parce que 138 moins 83, ça fait 55, si je sais encore compter. Et ces 55 milliards, il faut bien qu'ils aient été perdus par quelqu'un. Donc, ils ont été perdus par les déposants. Donc, les banques publiques, c'est des endroits où l'État perd de l'argent et où les contribuables perdent de l'argent deux fois, puisqu'ils perdent de l'argent en tant qu'État et en tant que déposant. Il faut donc supprimer les banques publiques. Voilà, la démonstre Coderat démonstre en double. CQFD. Deuxième fois.
Deuxième fois.
Donc, si on supprime les banques publiques, on économise 83 milliards de francs, qu'on fait basculer dans le budget. Et voilà pourquoi Juppé n'est plus muet. Il a trouvé, il avait besoin de 60 milliards, il en a trouvé 83. Et les 23 qui restent, comme il n'en a pas besoin, il me les donne. Tant mieux, moi j'en ai besoin. Voilà, je pourrais même aider le pasteur Blanchard pour son social.
On a bien besoin.
23 milliards, c'est rare.
Oh, ça serait très bien. Okay. C'est même trop.
Alors, c'est entendu. Aussi vrai que je m'appelle Beketch, si Juppé me donne les 23 milliards, je vous en donne la moitié. Allez, hop, soyons pas chers. Donc voilà, on a trouvé 60 milliards ce soir. C'est bien, non? Je fais des croix sur mon papier. Quelqu'un qui dit que je suis persifleur car c'est honteux de se moquer des autres comme je le fais.
C'est un qualificatif de plus à ajouter à la liste.
Ah oui, persifleur, ben oui, bien voilà. Sûr. C'est vrai. Braque, sale, crédule, superstitieux, gros, chauvin, ivrogne, goin, chauffeur, macho, radin, bête, impuissant, menteur et persifleur.
Moi, on est bien, nous, les femmes, parce qu'on n'est pas dedans, on peut pas être macho, donc on fait pas partie de la liste.
Ah, c'est les Français, on peut, ils parlent
c'est
pas français, des Français.
Françaises.
Cono a été condamné. Tu sais qui est Cono? Ah ben Cono, c'est comme son nom l'indique. C'est un monsieur qui a fait un livre. Il a fait un livre sur le Front National. Il va tout révéler sur les filières noires du Front National. Les secrets, où est-ce que le Front National y trouvera l'argent, qu'est-ce qu'il fait l'argent, tout ça. Et puis, Cono, boum, premier procès. Il va en avoir 50 des procès au minimum. Donc déjà le premier, il a perdu, ça y est. Sandrine Le Chevalier l'a fait condamner. 10 000 francs de dommages et intérêts et obligation de couper le chapitre diffamatoire, insultant et mensonger qu'il a visé. Cono au ciseau et au portefeuille. D'ailleurs, quand le bouquin est sorti, Jean-Marie Le Pen m'avait dit, Cono, je lui ai fait vendre sa maison, je lui ai fait vendre sa voiture, maintenant je lui ai fait vendre son... Quoi donc ? Qu'est-ce que je me souviens ?
Son duplex.
Son duplex, voilà, c'est ça, quelque chose. Donc Cono, première condamnation. On va tenir dans cette émission le compte des condamnations de Cono. Une fois, Cono, un point. Les socialistes demandent le droit de vote pour les immigrés. Ça a été annoncé dans la presse aujourd'hui. S'ils croient qu'ils sont originaux, ils se foutent le doigt dans l'œil. Chirac, c'est depuis 1974 qu'il demandait le droit de vote pour les immigrés. Il l'avait promis. Tiens, en fait, on pourrait lui rappeler. Donc les socialistes, c'est raté. Si vous croyez faire un coup d'éclat, c'est complètement raté. Je voulais parler de M. El Kabbach, mais finalement, non. Je ne vais pas parler de M. El Kabbach parce que ça me fatigue. Tous ces milliards, on a économisé 60 milliards tout à l'heure, on n'a pas encore... Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur ?
C'est honteux quand on voit le nombre de gens qui sont dans le désarroi et qui ont des besoins élémentaires qu'ils ne peuvent pas... assouvir et qu'il y a des gens comme ça qui se baignent dans l'argent. Mais vous parliez tout à l'heure des socialistes qui veulent faire voter les immigrés. J'ai encore une nouvelle plus consternante qui est celle de la Fédération protestante qui, lors de sa dernière assemblée, a voté une motion parmi les 20 qu'elle a votée qui demandait de soutenir les musulmans de France pour construire leur salle de prière et leur mosquée. La Fédération protestante de France. Ça a été voté à l'unanimité.
Ne me tentez pas. Ne me tentez pas.
Mais je crois que nos amis catholiques font aussi bien.
Ah oui, non, ça, il n'y a rien à dire. Non, El Kabbach, c'est... Je crois que cette histoire va très, très, très mal finir. Si on la laisse aller au bout, je crois qu'on va trouver des choses extrêmement vilaines.
Il y a une auditrice qui demande que vous parliez du Parlement européen, du bannissement de Jean-Marie... Non, c'est pas là, c'est pas le Parlement européen qui est venu chez nous.
Qui
non.
Qui fait une tentative de musique concrète.
Le Parlement européen, le bannissement de Jean-Marie Le Pen et puis l'élargissement de la loi Guesso à toute l'Europe.
Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise ?
C'est intéressant.
Ah oui, c'est. Mais oui, c'est ça. Enfin, on y est quoi. Ces gens qui sont tout le temps en train de se battre contre l'exclusion, ils ont décidé de bannir Le Pen. Il y avait un superbe papier hier. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez pas lire
présent.
Vous ne voulez pas lire présent. Vous ne voulez pas lire le libre journal. Alors, vous ne pouvez pas lire des bons articles. Vous n'avez plus que les papiers de National Hebdo, mais ça ne suffit pas.
Non, c'est très bien, National Hebdo. Oui.
Eh ben, c'est ce que je dis. C'est
ah bon, je vous dis que vous n'avez
pas. Mais ça ne suffit pas. Mais non, mais ça ne
tous les liens, tous.
Ça ne fait pas ventre. Pour faire ventre, il faut lire National Hebdo, il faut lire Monde et Vie, il faut lire, je vais encore en oublier, je vais me faire tirer les oreilles, Rivarol, Lettres françaises.
Citez pas le livre journal de la France courtoise, vous allez être battu.
Le livre journal de la France courtoise, il faut le lire. Voilà. Et donc là, vous verrez qu'effectivement, non, le papier, alors pour en revenir à ça, le papier de Georges Paul Wagner était formidable, il démontrait que c'est le racisme d'exclusion. les plus féroces qui règnent dans ces milieux, mais pour des raisons, prière de se reporter au chapitre précédent. Hein. C'est pas la peine que je vous fasse de
les intolérants de la tolérance.
De dessin. Donc voilà, ils ont banni Le Pen. Ils se rendent, mais alors, je vais revenir à ça. Georges-Paul Wagner avait une comment dirais-je, une espèce d'illumination dans ce papier, qui est quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que, et il écrit, que ces gens-là, en frappant Le Pen de la peine de bannissement, rendent un hommage extraordinaire à nos idées. Parce que c'est vrai que pour nous, qui sommes totalement enracinés dans notre civilisation, dans notre tradition française, dans notre pays, dans notre terre, il n'y a pas de crime plus grand, il n'y a pas de peine plus terrible que le bannissement. Georges-Paul Wagner disait que, d'après lui, et je ne suis pas loin de penser la même chose, Louis XIV, en commuant la peine de bannissement qui avait été prise, ordonnée contre Fouché, et en la commuant en réclusion perpétuelle, avait adouci la peine, car pour un homme de cette époque-là, c'était moins dur de vivre en France en prison jusqu'à la fin de ses jours que d'être chassé de France jusqu'à la fin de ses jours. Eh bien, c'est les voyous mondialistes, parce qu'il ne faut plus dire cosmopolite, c'est streng verboten cosmopolite.
Ah oui, c'est interdit, hein, bon.
Vilain mot cosmopolite. Hein. Ouh là là. Alors il faut dire mondialiste maintenant. Donc c'est les voyous mondialistes, les gnomes de Bruxelles, qui reconnaissent qu'il n'y a pas de peine plus lourde que le bannissement. Cela dit, si Le Pen est banni de Bruxelles, je pense qu'il s'en fout. Vous voyez, je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'il s'en tamponne le coquillard. Du moment qu'on ne le bannit pas de la Trinité, il pourra survivre.
Hein? Mais...
Oui, Cono.
C'est à propos de votre Cono chéri, là. On vous signale qu'il a été condamné récemment à des dommages et intérêts de l'ordre de 30 000 francs pour injure publique à l'encontre de Madame Derbet, conseillère régionale FN. Mettez une deuxième croix.
C'est Cono, je croyais que c'était le faux aveugle, là, comment il s'appelle
Je ne sais pas.
Jean Dernalier.
Je lis ce que nous dit notre auditeur.
C'est pas Jean Dernalier. Jean Dernalier a été condamné pour insulte. À l'endroit de Karine Derbet. Mais peut-être que nous aussi. À ce moment-là, Karine va pouvoir nous inviter à boire un cocktail dans sa propriété somptueuse, d'ailleurs. C'est vrai, si elle touche des dommages et intérêts de tous les voyous, elle va finir par s'enrichir beaucoup. Alors en tout cas, je mets deux croix à Cono.
Et votre Cono chéri toujours a été invité à France 3 chez Philippe Tesson, qui a refusé de recevoir le professeur Israël pour Cerveau gauche, cerveau droit, livre certainement subversif.
Eh bien vous voyez, ça c'est tout à fait intéressant, parce que nous, qui Radio Courtoisie, qui passe pour une radio, enfin, dont on fait le portrait d'une radio sectaire, c'est une radio qui reçoit souvent M. Philippe Tesson, et qui a reçu souvent M. Israël, qui reçoit souvent le professeur Israël. Tandis que Philippe Tesson ne reçoit pas le professeur Israël. Si Cono veut venir dans mon émission, je veux bien. Hein. Je l'invite, Cono. Parce que, dans l'espérance qu'il dira des bêtises, et qu'il aura des procès.
Passez la monnaie.
Quoi d'autre? C'est tout.
Pour le moment, ça va.
Elle a une pile d'au moins 160 messages devant elle, et elle dit, non, il n'y a que ça d'intéressant.
Mais non, mais pour le moment, je ne les ai pas lus, alors je ne peux pas lire n'importe quoi, je risquerais d'avoir des ennuis.
Ah oui, je signale une chose, effectivement, j'ai complètement oublié, c'est que, comme d'habitude, après cette émission, on se retrouve rue Campagne Première, chez la Mérage. La Mérage, c'est la Mérage IT.
43 35 56 64.
Si vous voulez réserver, vous téléphonez, parce qu'il y a très peu de place. Hein. On peut être une vingtaine. D'ailleurs, au-dessus, ça serait un meeting, ça serait pas marrant. Donc, il y a une vingtaine de places. On s'amuse bien, on chante, on blague. C'est très sympathique, vous verrez, pasteur. Le pasteur vient, donc si vous voulez voir un protestant chair et en os, vous venez et vous en verrez. Hein.
J'ai deux bras, deux jambes,
il est humain.
Un cerveau qui
est humain, il est plus proche de l'humain que de l'animal.
Hein, je sais.
Comme dirait Kessler. Alors, 43, 35, 56, 64, vous venez, monsieur Pasquier?
Non, je décline, mais la prochaine fois.
Vous déclinez? Hein? Ça ne se voit pas.
Eh bien, écoutez, vous êtes bien aimable. Au moins, quelqu'un d'aimable ici.
Déclinez.
Bien de votre aimable invitation.
C'est gentil.
Dites-moi, Serge, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous avez dit Fouché? Vous avez dit Fouché ?
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Au lieu de dire Fouquet, vous avez dit Fouché ?
Je voulais vous reprendre, non, mais je ne suis pas permis.
Votre langue a fouché ?
Ma langue a fouché.
J'avais noté.
Pardon, non mais c'est pas assez en réalité, c'est parce que je suis complètement ignare.
Non, on peut se tromper.
On vous demande si le bannissement de Jean-Marie Le Pen est une déclaration d'intention. Ben, on espère, oui, c'est pas encore passé.
Je peux pas qu'ils vont le bannir du monde. Parce que comme c'est des mondialistes, ils veulent le bannir et le bannir du monde.
Donc,
je vois pas.
Que leur reste-t-il à faire ?
Oui, au dîner, il y aura aussi Olmeta, qui est un collaborateur du Libre Journal, qui est une des plus belles plumes du Libre Journal. Et donc, vous pourrez faire ça. En plus, c'est un garçon charmant. Je le dis pour les dames, il est très beau. Enfin, moi, il est vraiment très, très beau. Très beau garçon, très bien élevé.
Il y en a d'autres.
Grande aristocratie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez rêver de mieux ? Et célibataire, en plus. Voilà. Mesdames. Enfin, mesdemoiselles, pardon. Et jeune. Qu'est-ce qu'il peut avoir, le méta ? 40 ans à tout casser. Très, très. Vraiment. Voilà. Bon, ces bêtises étant dites, Pasteur Blanchard, oui.
À propos de la télé, oui, pour Jean-Luc Delarue, voilà pourquoi ils veulent le punir, c'est parce qu'il a passé dans une émission des moines, des religieuses qui parlaient de la vocation, et c'était une merveilleuse émission. Donc. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais enfin.
Non, mais c'est vrai qu'il avait fait cette émission-là, mais enfin, il en a fait tellement d'autres que ça m'étonnerait. Que ça soit pour ça. Non, c'est tout simplement, je veux dire, c'est tout simplement parce que il a du fric. Et il y a des gens qui voudraient avoir du fric et qui n'en ont pas. Et alors ils trouvent que c'est pas bien que les autres en aient. Quoi. C'est quand même un des grands ressorts de l'âme humaine, ça. Hein. Non seulement ils veulent avoir de l'argent, mais comme ils peuvent pas en avoir, ils voudraient que les autres n'en aient pas. Alors lui, ce qu'il a, c'est qu'il est pas malin, il aurait dû en donner. Oui, ça c'est bien, mais je ne le lirai pas parce que. Non, voilà. Je ne le lis pas, ça. Non, je ne le lis pas. Je n'ai pas envie d'aller en prison.
C'est dommage,
tout de suite.
C'est dommage.
Pasteur Blanchard, donc, Jean-Marie Le Pen, si j'ai bien compris, vous a confié le secteur social.
Oui.
Il a demandé de créer, en quelque sorte, une structure au sein du Front National.
À côté du Front National. Alors, avant de commencer à développer un petit peu ce qu'on souhaite mettre en place, je voudrais reprendre en aparté ce que vous avez dit au début. La petite phrase de mon ami Samuel Maréchal. C'est vrai qu'on m'a plusieurs fois comparé à l'abbé Pierre, parce que j'ai un cursus un petit peu de... je sors d'usine, je suis autodidacte, j'ai longtemps travaillé sur les terrains difficiles en tant qu'éducateur. Et puis c'est vrai que, bon, en dehors du mondialisme, puisqu'on dit plus cosmopolitisme, il y a des choses qu'on a en commun. Et Coluche est quand même ma génération, 68, et en dehors là aussi du côté caricatural, du côté vulgaire et du côté mondialiste, c'est vrai que ça a marqué notre génération. Alors, j'étais venu il y a de cela à peu près il y a quelques mois.
C'est vrai qu'il avait du talent, quand même.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il
a fait bien rire.
C'est vrai qu'il a quand même pas mal déliré, raconté beaucoup de choses, et puis à la fin, il savait plus s'arrêter dans la vulgarité.
Il savait plus s'arrêter à mot.
Au début, il était assez drôle, mais enfin, c'est vrai. Mais voilà, donc il y a quelques mois, j'étais venu parler un petit peu de mes futurs projets qui étaient en train de se construire avec le président Le Pen et avec Samuel Maréchal, qui est un peu la cheville ouvrière de tout ça. C'est lui qui, me connaissant, étant un ami, a pensé effectivement que je pouvais amener une dimension au sein du mouvement concernant le social. Puisqu'il faut préciser que je suis ici ce soir en tant qu'éducateur, puisqu'avant d'être pasteur, j'ai été éducateur pendant des années. J'ai commencé dans les années 75, un peu par hasard, à l'Armée du Salut. À l'époque, il y avait des ouvertures assez faciles dans le social. Dans une revue protestante, j'avais vu qu'ils cherchaient à l'Armée du Salut des travailleurs sociaux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans le social. Et on m'avait reproché la fois dernière, quand j'étais venu, de parler un peu de manière sibylline. De pas exposer mes projets, mais comme ils étaient en construction, je me devais un petit peu de les garder par devers moi. Alors, nous sommes effectivement un peu, bon, au sein du mouvement national, nous avons un statut un peu particulier. Moi, je suis donc ici en tant que praticien du social. Mon bras droit, celui qui sera secrétaire général de l'association que je suis en train de construire, est ici aussi en tant que praticien du social.
Pascal Rey, oui.
Qui est à côté.
Oui, c'est ça.
Vous êtes, alors vous aussi, vous avez une formation d'éducateur.
Je suis éducateur actuellement dans un centre...
D'ailleurs, vous êtes barbu.
Oui.
Non, mais il faut le dire, parce que l'éducateur est barbu. On voit bien que le pasteur Blanchard n'est plus vraiment éducateur, parce qu'il est rasé.
On reviendra un peu par rapport à Pascal. Et notre propos, avant d'exposer un petit peu ce qu'on souhaite mettre en place, c'est d'amener un savoir-faire qui manque dans le mouvement national. Et d'ailleurs qui manque dans tous les mouvements de droite. C'est vrai qu'on n'a pas su, dans la droite, que ce soit au RPR, à l'UDF ou dans le mouvement national, mettre en place des structures...
Donc quand on dit la droite, RPR, UDF, je peux pas... Enfin, je suis obligé de rire un moment.
Enfin, bon, ce qu'on classe en général la droite. On n'a pas su appréhender le phénomène social et mettre en place un savoir-faire dans le champ du social. Alors moi, mon souci, c'est de créer une structure qui soit une structure dans laquelle se retrouvent des professionnels du social. Après tout, quand on va chez son médecin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on lui demande pas quelles sont ses convictions, s'il est catholique ou protestant, on lui demande d'être efficace par rapport à ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire en tant que praticien qui vous reçoit. Donc une structure qui soit une structure efficace, qui amène un savoir-faire qui n'existe pas encore à l'heure actuelle au sein du Front National. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ça a été dit dans la lettre de Jean-Marie Le Pen, je ne suis pas, moi, membre du Front National, bien que je sois tout à fait engagé dans le combat national, je suis un compagnon de route. Pascal, c'est pareil, parce qu'on pense qu'à côté du politique, qui est une chose nécessaire et éminemment respectable, il faut qu'on investisse le champ social, mais à un autre niveau que le politique.
Quel peut être... parce que, bon, soyons clairs, aujourd'hui, tout le monde... prétend être rebouteux et avoir les moyens ou les idées ou le matériel pour réduire la fracture sociale, suivant le mot célèbre du golem de l'Élysée. Alors, quelle est la spécificité, quelle est votre spécificité à vous dans ce domaine? Quel regard, en quoi le regard que vous portez en tant que nationaliste sur cette question est-il original? En quoi se différencie-t-il du regard des autres sur cette réalité?
Eh bien, je crois que si je suis venu aux idées nationalistes, c'était à l'époque où j'étais en formation à l'école d'éducateurs et où on me repassait les vieilles maximes 68-ardes que j'avais connues dans ma jeunesse. J'étais marqué par 68, par le mouvement de mai. Et c'est suite à ça que je me suis aperçu que combien elles étaient caduques, ces théories, et que petit à petit, je suis venu au test social. Et pour moi, le social... a une connotation aussi avec le politique, tout se tient. Je crois que la perte de sens, la perte de valeur, la perte de repères vient aussi de l'abandon du politique par rapport à cette dimension-là.
Et est-ce que, bon, Le Pen dit souvent, au fond, la seule fortune des pauvres, c'est leur patrie, c'est leur enracinement, leur passé, leur patrimoine culturel, etc. Alors ça, c'est une vérité profonde.
Tout à fait.
Mais est-ce que vous croyez que quand on est confronté à la misère, parce que c'est ça la vérité aujourd'hui, quand on voit les gens dans la rue ou dans les institutions, on est vraiment dans une situation de misère noire, ce sont des gens qui sont vraiment dans une situation de misère noire, est-ce que vous croyez que ces gens-là sont réceptifs à un discours qui ne soit pas un discours purement alimentaire, si j'ose dire?
Ben, je crois que, bon, je vais exposer un petit peu les grandes lignes du projet que je veux construire, mais en tant que travailleur social ayant, pour ainsi dire, 20 ans d'expérience, je crois que tout se tient. On a vécu des époques dans l'histoire de notre pays où on n'était pas plus riche que maintenant, et où pourtant les gens vivaient à peu près normalement, où ils avaient des repères, où ils étaient heureux de vivre dans leur village ou dans leur commune. Et je crois que s'il y a beaucoup de phénomènes de marginalisation, il y a aussi des effets pervers dans la société qui font qu'il y a des gens qui sont marginalisés par le fait qu'ils ne sont pas adaptés, et il y a aussi des gens qui sont marginalisés, mon collègue pourra le dire tout à l'heure, parce qu'il y a tout un système pervers qui fait que des fois c'est plus rentable d'être marginal que de travailler au RMI. Alors les choses sont suffisamment complexes pour pas les réduire à un dénominateur, mais une chose qui est certaine, c'est que on a perdu le sens de la valeur du travail, le travail bien fait, le sens du devoir, le sens de ce qui est juste, et tout se tient. Je veux dire que dans la société, si ça va si mal, c'est que tout se tient. Je crois que le gros problème qu'on traverse, c'est pas un problème économique, c'est pas un problème politique, c'est un problème de sens, c'est un problème de culture, c'est une crise culturelle. Il y a une perte de sens, mais ça se joue aussi au niveau des familles qui sont éclatées, où souvent il y a trois pères différents avec des enfants. enfants. Les enfants n'ont plus de repères. Ça se joue souvent au niveau des jeunes couples, parce qu'on voit des couples maintenant qui se construisent, qui se marient plus, mais avec de plus en plus de différences d'âge, parce que souvent les filles n'ont pas eu de père, donc elles compensent en prenant un homme plus vieux. Je veux dire, il y a une perte de repères globale. Alors nous, ce que nous voulons faire d'abord, c'est très très pratique, hein. On veut poser les choses clairement, simplement, construire quelque chose, un projet qui soit en commençant par le bas à bas. C'est pour ça que d'abord, dans un premier temps, j'ai voulu réunir autour de moi une équipe de praticiens. On est en train de constituer une association qui va s'appeler l'ICAF Social, Institut Consultant d'Aide et de Formation Sociale, dont ce seront les travailleurs sociaux qui m'ont rejoint, qui composeront l'organigramme. Mon ami Pascal Rey, à qui je laisserai la parole tout à l'heure, en est le secrétaire général, et c'est à partir de cette équipe-là qu'on va proposer des prestations de services. Alors, nous, on vient dans le champ politique parce que c'est important, c'est par le politique qu'on arrive au pouvoir et qu'on peut changer les choses, mais nous ne sommes pas des politiques. Et dans le fond, la politique, nous savons pas le faire, c'est pas notre truc à nous. Je pense qu'on peut pas tout bien faire dans la vie, on peut pas se mettre à la place des politiques, et je pense pas que les politiques peuvent pas se mettre à la place des travailleurs sociaux. Donc on pense effectivement qu'il y a là quelque chose de très précis, et c'est la raison pour laquelle le président Le Pen m'a choisi pour diriger donc le secteur social, enfin bon, le domaine du social, puisqu'il y avait de la philanthropie qui était fait avec nos amis de fraternité, qui était très très bien fait. Ils sont coupés un petit peu de la domaine du caritatif et de la philanthropie, mais le domaine du social, lui, n'a pas été investi. Alors je reviendrai sur ce qu'est le social tout à l'heure et ce que nous voulons faire. Mais j'aurais voulu laisser peut-être la parole à Pascal.
Oui, ben, moi j'avais une question à poser à Pascal, parce que lui est encore, vous êtes en ce moment même éducateur.
Tout à fait. Oui.
Est-ce que vous avez l'impression, je reviens à la question que je posais au pasteur Blanchard, sous une forme un peu différente, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'un engagement politique, même à titre simplement de compagnon, de route, j'ai beaucoup de mal à employer cette terminologie.
Oui,
pourtant, c'est ça, quoi. Hein? Ne risque pas de provoquer un rejet a priori de la part des gens vers lesquels vous allez. Vous, quand vous voyez des gens qui sont en situation de détresse, est-ce que vous affichez votre engagement ou vos sympathies politiques, ou comment ça se passe?
Non, pas du tout. J'agis déjà en tant que professionnel et pas du tout en tant que compagnon de route du front. De même que disait mon ami Blanchard, c'est que quand vous allez chez un médecin, vous ne lui demandez pas quelle est sa religion pour savoir si...
Oui, nous on fait ça, mais je sais que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chez tel et tel médecin parce qu'il est au Front National. Enfin, beaucoup. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas voir le docteur Lunardelli à Toulon parce qu'il est Front Nat.
Ceci dit, c'est pas parce qu'on est compagnon de route du front que notre savoir-faire est à mettre en cause. Je veux dire, c'est vrai que, enfin, nous avons les mêmes moyens que tous les autres qui aident les gens. Nous avons le même savoir-faire, nous avons la même formation, nous avons été dans les mêmes écoles, hein. Et puis, après, on fait ce. Comme on le sent, quoi.
Selon vous, quelle est l'utilité pratique dans l'exercice de votre profession d'avoir une structure qui soit proche d'un parti politique?
L'utilité, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité. L'avantage, c'est qu'on nous donne des moyens, enfin... Que seul, enfin, en tant que petite association, nous ne pouvons pas avoir. Hein. Et puis, donc ça nous donne une force que peut-être certains n'ont pas. Hein.
Et vos confrères, comment réagissent-ils? Vos collègues?
Mes collègues, bon, c'est vrai que le milieu éducateur, c'est quand même... la plupart des gens de gauche. Hein.
D'extrême gauche, même ça.
Ouais, bon. Et que, ceci dit, quand on parle un petit peu avec eux, quand on réfléchit un peu, on voit bien qu'il y en a quand même pas mal qui nous rejoignent, enfin, qui rejoignent le front. Ouais. Parce que c'est vrai que nous sommes confrontés quand même en premier au problème, quoi. Et quand on voit les aides qu'ont certaines personnes, alors que... d'autres Français sont laissés à l'abandon et on n'a qu'à voir un petit peu qui fait la mendicité dans le métro. Mmh. moi, de ce que j'en vois peu d'étrangers, quand même. Bon, ceci dit, notre aide sera le même. Enfin, s'ils viennent nous voir, pourquoi pas.
Ce que je voudrais dire pour compléter Pascal, c'est vrai que tout est à construire. Vous savez que quand les gens de gauche, notamment après-guerre, ont commencé à prendre en main la structure du social, rien n'était acquis au début. Mais petit à petit, ils ont tout cloisonné jusqu'à prendre, après 68, les écoles d'éducateurs. Et effectivement, tout est à construire. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a vraiment un champ très très important, parce que beaucoup de gens s'aperçoivent que le discours du front est le seul discours qui corresponde à une politique réaliste, parce qu'à un moment donné, il faut réagir face aux vrais problèmes et pas cette fuite en avant continuelle qu'on voit chez Juppé ou Chirac. Et donc le seul qui tienne un discours cohérent, c'est le front. Et petit à petit, il y a des gens qui nous concèdent. J'ai écrit à une revue qui était de gauche, même d'extrême gauche, qui regroupait absolument tout le gouvernement actuel et celui qui était avant, qui me posait la question pourquoi j'avais rejoint Le Pen, dans laquelle je précisais que j'avais rejoint Le Pen parce que pour moi l'islam, je ne parle pas du simple lambda qui n'est pas responsable de ça, était un véritable danger pour notre pays et pour notre continent, et que effectivement en tant que barésien voulant défendre notre terre et nos morts, j'avais rejoint Le Pen. Et j'ai précisé une chose aussi pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, Serge, c'est que Le Pen a été le seul à me prendre au sérieux quand j'ai parlé de social. Parce que moi j'ai connu beaucoup de gens à l'UDF qui me disaient ce que tu dis Jean-Pierre, avec mon côté un petit peu ma faconde de prêtre ouvrier, ce que tu dis Jean-Pierre c'est intéressant, mais au bout du compte il n'en tenait pas compte. Et que Le Pen m'a pris au sérieux, et à un moment donné il m'a dit écoutez Jean-Pierre, je vous donne... Voilà, c'est une différence majeure, c'est que Le Pen, lui, m'a fait confiance. Et bien sûr...
Parce que vous étiez pistonné par Jeannet aussi.
Oh oui, puis bon, je sais que... Bon, non, je sais
le
que...
Le lobby schismatique...
Oui, non, non, mais plus, non, c'est surtout... je veux pas donner l'impression que je veux passer la bosse à reluire, mais c'est surtout Samuel qui a vu effectivement que je pouvais amener quelque chose, et comme bon, c'est un ami proche, et bon, sans que j'en sache quoi que ce soit, il en a parlé à Le Pen, à diverses personnes, et les choses se sont faites un petit peu, j'allais dire pas contre moi, mais il a fait avancer le schmilblick sans que je sois au courant.
C'est tout à fait cohérent avec son combat, qui est le combat placé sous la bannière, ni droite ni gauche.
Oui.
Il y a une grande cohérence dans l'action politique.
Mais ce que
lui, en tout cas, c'est clairement une action politique qu'il mène.
Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une réelle attente et qu'il y a un réel champ. Et je peux vous dire que je vais passer sur Europe 1, donc le 18 à 8h30, j'ai rencontré le journaliste d'Europe 1. Et nos adversaires sont très très inquiets de voir tous ces réseaux qui sont en train de se constituer autour du front.
C'est vrai qu'il faut comprendre aussi. Ils voient naître des syndicats, ils voient naître des organismes qui vont travailler dans le domaine social, ils voient naître des organismes culturels, des cercles, des choses comme ça. Ils se disent que l'enracinement est en train de se faire d'une façon irrémédiable et irréversible.
Et ça correspond, moi je le sais très bien parce que je le sens, ça correspond à une réelle attente. Déjà dans notre mouvement, avant que j'ai été nommé, j'ai eu des témoignages de gens qui me disent « Monsieur le pasteur, il faut que vous fassiez quelque chose, il y a des gens qui sont désespérés dans notre mouvement. »
Faire quelque chose, ça veut dire faire quoi?
Alors, voilà. Pratiquement. Donc, on est en train de créer cette association, elle est créée avec, Pascal Rey, j'en suis le président, Pascal Rey qui en est le secrétaire général, un autre éducateur qui en sera le vice-président, enfin bon, donc toute une équipe éducative autour de moi.
Donc c'est vraiment une association, c'est un cercle de professionnels.
Voilà.
Professionnels du social.
Et qui sera chargé de donner des prestations de service à ceux qu'ils demanderont au sein du mouvement. Voilà, on est à la disposition de tout le monde. Et ceux qui feront appel à nous, eh bien, on leur amènera un savoir-faire qu'ils n'ont pas.
Ça veut dire que, par exemple, vous allez travailler en synergie, comme on dit maintenant, avec les mairies.
Voilà,
entre autres. À Orange, ouais. À Toulon, à Marignane.
Oui, alors, entre autres, d'abord, Madame Dornano de Fraternité Française m'a demandé une prestation de service. Elle m'a demandé de donner des cours de psychologie pour les gens qui assurent des permanences dans le cadre de Fraternité Française. Quand vous recevez des cas sociaux, il faut avoir un minimum de psychologie, pas pour les juger, mais pour comprendre ce qui se passe par rapport à leurs problèmes, pour décrypter ce qui se dit. Parce que souvent, bien sûr, ils vous mentent, ils sont dans leurs problèmes, ils le font pas toujours de manière délibérée. Ce sont des gens qui sont tout à fait avec des problèmes pathologiques graves. Donc, on va donner des cours de psychologie. Je vais donner des cours de psychologie aux gens de Fraternité. Ça va commencer d'ailleurs le mois prochain à Grenoble. Ça, c'est le premier point. Le second point, donc, je me suis mis à la disposition des communes...
Ça, pardon, je vous interromps une seconde, parce que ce que vous venez de dire répond à des questions qui sont posées. Est-ce qu'il n'y a pas concurrence ou doublon entre Fraternité française et
non. Et votre association ? Alors, on en a parlé avec le responsable de Fraternité, de qui on est très proche. Au contraire, on est tout à fait complémentaires, parce que Fraternité occupe le terrain qui est du caritatif et de la philanthropie, donc de pourvoir aux besoins des hérités français en leur donnant des vêtements, des soupes, des aides. Nous, on donne des prestations de services, un savoir-faire. C'est tout à fait différent. Donc ça, c'est le premier point, cette prestation par rapport aux fraternités françaises. Le second point, je me suis mis, mon équipe et moi-même, à la disposition des mairies. J'ai écrit aux trois mairies de Toulon, d'Orange et de Marignane pour dire que on était à leur disposition pour réfléchir ensemble comment faire dans le social, dans leur municipalité, et pas sur le court terme. Donc sur la durée de leur mandat, comment mettre en place des projets sociaux. Ça, c'est le second point donc du travail que l'on va entreprendre. Et le troisième point, et c'est une des raisons pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, Serge, et qu'on est là présentement ce soir, c'est vrai que ce projet suscite beaucoup d'attentes et qu'il y a beaucoup de gens dans notre mouvement et autour du mouvement qui sont dans un grand désarroi, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui sont en fin de droit, des gens qui sont expulsés, qui sont du front ou proche du front. Et ces gens-là, moi, pour eux, je veux trouver un lieu d'accueil qui soit neutre, qui ne soit pas politique, parce que bien sûr le politique a son rôle à jouer là-dedans, mais quand on accueille quelqu'un qui est en difficulté, qui est dans des problèmes psychologiques, il ne faut pas mélanger le politique et le social, un lieu neutre sur Paris, où j'assurerai des permanences deux fois par semaine. Donc je lance un appel sur ces ondes pour dire que s'il y a quelqu'un qui puisse me prêter un appartement qui n'aura absolument rien à voir avec la politique, il n'y aura pas sur les murs de portraits d'hommes politiques, donc un lieu neutre pour accueillir les gens, eh bien, je leur en serai reconnaissant, parce que c'est quelque chose qui me semble très très important, qui est un lieu de parole. Notre travail sera de décrypter ce que disent les gens pour au moins leur apporter des pistes. On ne va pas faire de miracles. Les miracles n'existent pas.
Comment les miracles
existent ? Non, mais en social...
Qu'est-ce qu'il nous dit le pasteur ?
Non, mais je veux dire que les miracles... je ne parle pas d'un point de vue théologique, mais pour trouver du travail, c'est pas si facile que ça. Mais si déjà on peut donner des pistes aux gens, leur dire, voilà, il faudrait faire telle démarche ou telle démarche par rapport à votre problème... Eh bien, on aura fait un grand pas. Alors, je fais aussi un appel, bon, pour trouver un appartement, et puis on n'a pas de moyens financiers, parce qu'on est tout seul. On se crée association, loi 1901, vous savez comment c'est. Donc, on est tout seul. S'il y a des gens qui veulent nous aider, donc, moi, j'ai un bureau au 4 rue Vauguyon, à 92-210 Saint-Cloud, et mon téléphone, c'est le 41-10-12-62 à Saint-Cloud. Voilà ce que je voulais dire, ce qu'on est en train de construire, mais bien sûr, ces projets seront étayés par d'autres projets ultérieurs. On est à la disposition de tout le monde. Par exemple, Samuel m'a demandé à partir du mois prochain d'assurer une permanence sociale à la mairie de Saint-Ouen-l'Aumône. Donc j'irai un mercredi tous les 15 jours l'après-midi pour m'occuper des Français déshérités à la mairie de Saint-Ouen-l'Aumône. Je suis ouvert, donc comme je donne des prestations de service, à toutes les demandes, ouais, dans la mesure de mon temps disponible aussi, parce que si tous les gens me demandent d'aller à droite, à gauche, je ne pourrais pas le faire. Mais voilà, toutes les demandes seront les bienvenues.
J'imagine aussi que s'il y a des éducateurs ou des professionnels du social qui veulent vous rejoindre, donc ouais, ils téléphonent au 41 12 10 62, ouais, ils demandent Jean-Pierre Blanchard.
C'est ça.
On peut oublier le pasteur pour les circonstances.
Mais tout à fait.
Parce que ça n'est pas le pasteur qui... Vous savez, vous venez de faire une recrue, là. Je vois qu'il y a une madame qui se manifeste.
Quelqu'un de très bien, en plus.
Oui, très bien. Je la connais personnellement.
Oui,
je crois. Depuis longtemps, je peux vous la recommander. Merci.
Oui, vous écoutez Radio Courtoisie.
Bon.
Le journal de Serge de Becquetch, qui vient de recevoir le pasteur Blanchard. Monsieur, pardon.
Jean-Pierre Blanchard.
Jean-Pierre Blanchard et monsieur Pascal Rey.
Merci à vous, bon courage, parce que vous n'avez pas choisi.
Merci.
La facilité. C'est ça qui est exaltant.
Louis Pasquier, bonsoir.
Eh bien, écoutez, bonsoir, merci.
Avez-vous une opinion sur ces questions-là ?
J'en aurais une, mais je la délivrerai à la fin.
Non, d'accord.
Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que j'avais préparé autre chose.
Ah bon. Simplement. C'est bien, M. Pasquier, parce qu'il n'est pas, il n'a aucun respect humain. C'est-à-dire, quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Quand il n'a pas envie de répondre, il répond pas. Ah, oui, toujours avec beaucoup de courtoisie. Mais enfin, quand même, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien cet homme-là.
Eh bien, écoutez, vous êtes aimable.
Croyez-vous, vraiment.
Si.
Ce n'est pas une opinion.
Ça vous arrive.
Unanime.
Nous avons parlé de Fouquet. Enfin, vous avez évoqué Fouquet.
Enfin, moi, j'ai parlé de Fouché.
Oui, peu importe. Et on a, l'année dernière, ou il y a deux ans, c'était l'année Lafontaine, grand poète s'il en fut. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté. Vous m'avez pas invité pour ça, hein, mais j'en profite.
Mais non, mais allez-y, vous avez le micro, alors.
On n'a pas insisté, assez insisté sur la loyauté de ce monsieur Lafontaine, outre son caractère, enfin son génie poétique, sur sa fidélité à l'égard de Fouquet.
Il fallait bien qu'il soit fidèle à quelqu'un.
Oui, je ne parle pas de comment dirais-je, de Gaudriol. Il s'agit là de d'aspects de fond, malgré les pressions, parce que les rois sont ce que nous sommes, hein, quelquefois. Donc le pouvoir absolu.
la théorie des anarchistes.
Non, mais Louis XIV, je pense qu'il n'aimait pas trop être contredit.
Hein, et vous savez, l'histoire, l'affaire Fouquet, enfin, on va pas faire de l'histoire
secrète. Non, j'entends, mais Lafontaine...
L'affaire Fouquet est une affaire tellement extraordinairement forte dans le destin de la France et complexe que... On peut pas en juger comme ça. Mais c'est vrai que Lafontaine a été tout à fait...
Une grande loyauté, indépendamment des pressions.
Oui.
Et pour ne pas dire plus, qu'il a subi.
Mais c'était pas des gens médiocres, tout ça, tous ces gens-là. Hein.
Il n'y a pas beaucoup de médiocrité. Toujours bon là-dedans. Que sous une pression ennemie et favorable et qui donne la manne, qui distribue la manne, on reste soi-même. Je trouve ça très bien. Deuxièmement, s'agissant du premier aspect que vous avez évoqué, j'ai eu le bonheur donc de fréquenter les groupes Gurdjieff très tôt dans ma petite vie. Et donc au lendemain de la guerre, tout de suite, et j'ai vu, je dis ça pour dire les choses, beaucoup de juifs qui avaient été protégés, comment dirais-je, que l'on avait cachés, dissimulés, par des gens qui après ont fait de, si j'ose dire, carrière chez Gurdjieff. Et j'ai eu même un témoignage émouvant, je ne veux pas citer le nom, de quelqu'un qui devait, comment dirais-je, être reçu, un juif, donc reçu par le pape, pour un tas de raisons, et qui, le jour de sa réception, il devait se rendre, enfin, l'enterrement de la personne qu'il avait protégée avait lieu, et malgré toute l'attirance qu'on ne peut avoir pour une telle cérémonie, il a préféré assister à l'enterrement de la personne qu'il avait protégée.
Oui, c'est une belle histoire.
Hein, et qui avait sauvé la vie, il faut dire les choses comme elles sont.
Mais, vous parlez de Gurdjieff au déboté, comme ça, sans peut-être que...
Non, c'est pour que je rapporte j'ai bien à compris. Votre propos du début.
Mais alors, puisqu'on va en parler ce soir, qui était-il en peu de mots, définissez-le rapidement pour que les auditeurs qui ignorent Gurdjieff sachent de qui il s'agit.
On a parlé des murs.
Il faudrait des années pour en parler.
Il n'y a pas si longtemps, je rencontrais un de ses disciples qui était tout proche de lui. Je dis son âge, on n'a jamais connu l'âge de Gurdjieff.
C'est vrai.
Hein? Donc on suppose qu'il est mort à 85 ans, en 49. On suppose. C'est un homme qui sans doute avait été initié au sens où on l'entend, au sens où Daniel Loul l'entend, dans les contreforts de l'Inde, et qui en avait rapporté... à la fois une connaissance telle qu'on l'entend, et dans le domaine pratique des éléments. Il était capable de faire des miracles.
C'était un Russe ?
C'était un Grec du Caucase.
C'est ça.
C'est un Grec du Caucase qui avait la nationalité russe, par conséquent.
Car son nom, c'est Gorgi, en réalité, qui est un nom très très répandu dans ces régions du Caucase, et qui avait été russifié pour devenir Gurdjieff.
Voilà.
Et c'est un personnage, alors physiquement, assez impressionnant, non ?
Souple, félin. Félin, encore que j'ai connu, moi, à la fin de sa vie.
Hein. Avec un regard brûlant.
Brûlant, absolument. Et on ne peut pas dire... Enfin, il inspirait une certaine crainte en tant que tel, indépendamment de toute idée de punition, chose comme ça. Pardon.
Oui, parce que c'est, effectivement, je comprends que vous vouliez évoquer cet aspect de cette personnalité, mais il faut le définir rapidement un peu plus qu'on ne l'a fait. C'est-à-dire, donc, c'est un étranger. C'est vraiment l'étranger dans toute l'étrangerité possible, hein, qui est mais en France.
Mais si c'était occidentalisé, voilà, si je puis dire.
Oui. Et qui vient.
Sans pour ça que ça soit positif.
Qui vient en France et qui réunit autour de lui, oui, une espèce de cénacle.
Oui.
De jeunes gens en général.
Oui. Oui.
Auquel il va transmettre un enseignement.
Oui, oui. Alors, il avait commencé déjà en Russie.
C'est ça.
Et en Russie, quelle il est l'école avec Ouspensky.
La nature, oui, c'est un disciple de...
Ouspensky étant un Ouspensky. Disciple de...
Oui, pardon, Ouspensky est un disciple de Gurdjieff. Quelle est la nature...
Et Ouspensky, j'étais là lorsque le premier ouvrage de Ouspensky qui a trait à sa vie avec Gurdjieff a été lu, devant moi et devant les autres, devant tout le monde, donc. Et Gurdjieff, qui l'écoutait, on comprend pourquoi, a dit bravo, bravo Ouspensky, bravo Ouspensky, plusieurs fois. C'est donc qu'on peut accorder du crédit
oui,
à ce que raconte Ouspensky. Ça, c'est important parce que son livre est très intéressant à tous égards, et notamment par la relation qu'il fait de sa relation avec les groupes Gurdjieff. Et il parle également de Catherine Mansfield. Il en parle en termes tels que ça remet les choses en place.
Alors, donc, parmi les disciples, on peut dire, de Gurdjieff, parmi ceux qui ont suivi son enseignement, oui, il y avait Catherine Mansfield, vous venez de la citer, oui, il y a eu Louis Powells, qui a été aussi un de ses,
oui, je l'ai
un
moins
de ses disciples, qui a écrit déjà un livre,
oui,
et puis qui ensuite s'était éloigné de Gurdjieff, et qui maintenant semble s'intéresser de nouveau à lui, ou faire une espèce de retour, on ne sait pas trop, il paraît qu'il est sur le point de publier quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'était les grandes lignes de cet enseignement?
Écoutez, comment dirais-je, suis-je habilité au sens pédagogique du terme à répondre à votre question valablement, comme on peut dire en termes juridiques? Il se trouve que Gurdjieff considérait que nous étions tous des automates, qu'il fallait donc prendre une conscience de soi-même.
C'était la doctrine de l'éveil.
C'est ça, la conscience de soi-même par, dévoté, c'est quoi le dire tout à l'heure pour la botte en touche, là. Mais conscience de son corps, d'abord. Ce qui paraît, ce qui semble paradoxal et qui me paraît tout à fait judicieux. Nous tous... oublions que nous avons un corps et réinstallation à l'intérieur de notre corps peut nous apporter calme et paix pour le moment considéré. Et en tout cas, nous faire retrouver une sensation de nous, parlons de la sensation, et cette sensation de nous peut nous, sauf à rêver, ce qui doit arriver par la force des choses, nous faire prendre de notre entourage dans le grand sens du terme, dans tout le sens du terme, à savoir, on peut essayer à travers soi-même, de sentir un arbre. C'est ça qui est un...
Vous savez, je crois que...
Un arbre ou un animal, hein.
Je crois que ça, c'est un des grands... Enfin, des grands thèmes de tous les enseignements spirituels,
oui, oui.
Y compris d'ailleurs dans la tradition catholique, la vraie tradition catholique, la vraie tradition chrétienne. Si on n'a pas conscience de la réalité de son corps, on ne peut pas être complètement à l'aise dans son esprit. Je veux dire par là que si on s'aperçoit que... Enfin, si on analyse ses positions, très souvent on découvre qu'au moment où on parle, on a les poings serrés, ou on a les mâchoires bloquées, ou on a les pieds recroquevillés dans les chaussures, et sans aucune raison physique. Il ne s'agit pas de compenser une perte d'équilibre ou quoi que ce soit. Il s'agit d'une espèce de réaction, de renfermement sur soi-même. Et si on pratique cet exercice qui consiste à s'ouvrir le corps, tout simplement en apaisant son corps, on s'aperçoit que l'esprit fonctionne beaucoup mieux. Donc ça existe, et ce sont les postures de prière, notamment. C'est pour ça que les religieuses,
oui,
par exemple, ont des positions de prière qui sont...
des postures, en quelque sorte. Ça rejoint la posture.
Voilà,
mais en fait, la posture se limite bien souvent, qu'on le veuille ou non, parce que nous sommes des animaux à tête pensante, si je puis dire, se résume tout simplement à une fixation de l'esprit sur un sujet, sur un autre. Alors on peut arriver à des phénomènes paranormaux, mais là n'était pas le but. La sensation de soi, quelque chose finalement de tout simple et très difficile. de tout simple, parce que ça paraît simple, on sent sur la main la tête, on sent sa tête, mais il y a tout un mouvement interne au corps qui demande à être perçu. Et cette perception vous fait découvrir autre chose. Tant que nous n'avons pas eu à un certain moment la sensation de nous-mêmes, on ne peut pas, à mon sens, prétendre aller plus avant dans la spiritualité. Et ainsi, vous parlez des moines, les om, vous savez, tous ces chants qui s'apparentent à des litanies, sont en fait l'écho que... ça consiste en un écho de l'homme vis-à-vis de lui-même, cet écho qui soulève, qui apporte, qui amène des respirations un peu différentes, encore que là, il ne faille pas jouer avec ces choses-là. Mais, en tout cas, je réponds... mieux possible et peut-être le plus bêtement possible à votre question. D'abord, il s'agissait de se sentir soi-même et donc de se réveiller à soi-même, puisque sa grande idée, qui n'est pas la première, ce n'est pas le premier à avoir eu cette idée, c'est le réveil de soi. Nous dormons, le Christ croit, je dis, vous dormez, et ce sommeil, il y a plusieurs étages de ce sommeil, plusieurs étages de ce réveil.
C'est le grand message du jardin des Oliviers, le Christ revient à plusieurs reprises.
Vous dormez, les gens ne dormaient pas, ils ronflaient pas, hein. Il y avait une présence à eux-mêmes qui était oubliée. Or, il y avait donc cette prise de conscience de soi, et la prise de conscience plus difficile... des automatismes, à savoir que la conscience est absente de toutes nos réactions. Il y a là des réflexes, ces réflexes sont ont leur intérêt. Une pierre tombe à côté de vous.
Ne serait-ce que la respiration
encore qu'il y a des maîtrises de respiration que je n'ai pas à dévoiler, que je ne connais pas, que je connais très mal d'ailleurs, qui justement rendent tous ces mécanismes mécaniques, oui, conscientes. À ce moment-là, ce ne sont plus des mécaniques. Simplement, j'ai peur d'oublier quelque chose. L'autre fois, vous aviez, lors de votre aimable invitation, vous aviez demandé ce que pensait Gurdjieff de la nature. L'émission s'est terminée sans que je puisse vous répondre. Je l'ai entendu dire, et c'est écrit aussi, et peu importe d'ailleurs de quelle forme ça apparaît, c'est apparu, la nature qui sue sang et eau. Ce qui veut dire que toutes nos imbécilités, toutes nos inconséquences nous amènent à faire que la nature ne peut plus vivre comme elle devrait vivre.
Comment dirait maintenant, comme aurait dit d'ailleurs Dumont, c'est une conception holiste.
Oui, holistique.
C'est-à-dire que c'est une conception ultra-communautaire de l'existence. Ça veut dire que l'homme est à la fois responsable de lui-même, responsable des autres, et responsable de son environnement complètement.
Oui, mais oui, il est responsable de son... Ouais. J'ai du mal à assimiler environnement et nature parce qu'il y a un égocentrisme qui, justement, est à l'origine des troubles que nous connaissons.
C'est bien que ça, votre refus de l'égocentrisme ou de l'anthropocentrisme, c'est un des points sur lesquels nous divergeons.
Eh bien, écoutez, s'il n'y en a qu'un, ce n'est pas grave.
J'ai dit un des...
Mais, donc, la nature qui suit sang et eau, ça veut tout dire. Sur...
Est-ce que votre intimité, entre guillemets, est-ce que votre connaissance de Gurdjieff vous a simplifié la vie ou vous a compliqué l'existence?
Écoutez, a posteriori, comment voulez-vous le dire? Si je ne l'avais pas connu, j'aurais peut-être fait autre chose.
Oui, mais si vous regardez en arrière, est-ce que vous êtes content d'avoir connu Gurdjieff? Est-ce que positivement...
Je suis plus que content. Oui. Je suis plus que content. Puisque
vous pensez qu'il vous a aidé à vous accomplir d'une certaine manière.
Vous êtes bien aimable de parler d'accomplissement. Il se trouve que j'ai connu d'autres personnes après. Mais en tout cas, je suis... Je remercie le ciel, vous voyez, je tombe dans votre giron.
Dans mon travers.
Dans votre giron.
Et celui du pasteur.
Je remercie le ciel de m'avoir fait connaître Gurdjieff. Et je ne suis pas le seul à l'avoir connu. Vous parliez de Powell. Vous savez, au lendemain de la guerre, dans tous ces mouvements divers, beaucoup de gens, dont je ne veux pas citer les noms, parce que j'entrerai là dans une intimité et ça ne regarde que comment dire qu'eux-mêmes, hein, s'ils veulent le dire, mais des gens de grands noms de l'époque qui se pressaient pour avoir quelques propos de Gurdjieff, pour le voir, vraiment des grands noms. Oui.
Alors, il y a, pour finir, on en reparlera, vous reviendrez nous voir, monsieur, parce que il faut qu'on... vous m'intéressez beaucoup parce que vous avez
eu contact
avec des gens comme Danielou, Gurdjieff, Chvalerkovitch, oui. Sacks,
Danielou, c'est un grand monsieur.
Danielou était, comme son frère d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire de penser qu'une famille a pu donner deux êtres à la fois aussi dissemblables et aussi importants.
J'ai eu l'honneur de connaître le cardinal, mais très peu de temps.
Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs, mais... je vais essayer de vous en poser quelques-unes auxquelles je vous demanderai de répondre rapidement. Il y a une question pratique à laquelle on peut répondre facilement, c'est est-ce qu'on sait où repose Gurdjieff?
Oui.
À quelle date? Vous avez dit qu'il était mort en 49. Hein?
Au cimetière d'Avon.
Il est au cimetière d'Avon.
Oui, parce qu'en fait, il avait acquis la propriété de Laborie, qui était le défenseur de Dreyfus.
De Dreyfus, c'est ça.
Oui.
Deuxième chose, alors, il y avait chez Gurdjieff une dimension ultra provocatrice, provocatrice, je veux dire que c'est un des plus grands provocateurs du siècle.
Oui, oui. Et les gens étaient haut placés, plus provoqués.
Et ça apparaît dans le titre d'un de ses livres, qui est « Les paroles de Belzébuth ».
Oui.
Je sais pas si c'est un auditeur, un auditeur. Il nous dit, qu'est-ce qu'il faut penser de cette œuvre? Est-ce que lui a l'impression que c'est une œuvre hermétique et absconce et ésotérique? Vous, quelle est votre opinion sur les paroles de Belzébuth? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un livre transparent, mais...
Oui, écoutez, vous savez, c'est comme dans beaucoup d'écrits, chacun y trouve ce qu'il est capable d'y trouver. Parce que la question est là. Ouspensky raconte dans son livre, La fragment d'un enseignement inconnu, qu'il savait, Gurdjieff, que des gens allaient en Inde et allaient après faire une conférence, etc. Bon, et Gurdjieff a dit à Ouspensky...
On disait deux jours en Inde, deux ans à Salpêtrière.
Oui, mais non, mais vous allez écrire, je vais vous dire ce qu'ils vont... dire. Si, je vais vous dire ce qu'ils vont nous rapporter. Et Ouspensky, on ne peut pas soupçonner, puisqu'ils sont disputés, etc., de mensonges à cet égard. Ouspensky dit c'est exactement...
Mot pour mot, ce que
l'idée, ouais, bien évidemment.
Oui, j'entends bien.
Donc, en conséquence de quoi, il avait quand même des dons... perspicacité est un terme assez fort, mais des dons de quasi-voyance, voyance étant pris, non pas dans le sens extra-lucide, mais de pénétration de l'âme humaine.
Et alors, il y a une dernière question, mais qui nous emmènera beaucoup trop loin si vous tentez d'y répondre complètement, alors on pourra en reparler, puis peut-être, après tout, vous ne voulez pas évoquer cet aspect des choses. C'est une auditrice qui nous dit qu'elle avait rencontré la fille du comte de Gobineau, qui est morte en 88. Elle aurait 100 ans cette année, la fille du comte de Gobineau.
Oui.
Donc, quand elle est morte en 88, c'était déjà une personne d'un certain âge. Et elle gardait en souvenir l'épouvante que lui avait provoqué sa rencontre avec Gurdjieff. Et elle racontait que Gurdjieff, ça a été souvent raconté d'ailleurs, obligeait ses disciples à des pratiques, sinon contre nature, du moins contre la morale.
Écoutez, moi, pour ma part, je n'en ai pas connu. Je ne vais pas mettre en doute ce que d'aucuns rapportent, hein, puisque je demande qu'on ne mette pas en doute ce que j'avance. Donc, mais je n'en ai pas connu, c'est ma seule réponse. J'imagine que... Je ne sais pas, j'imagine rien du tout, d'ailleurs. Moi, je sais que je remercie le ciel de l'avoir connu. Et à donc, travers lui d'autres.
Tout ce qui a été dit sur les pratiques, allez, on va être courtois, tantriques de Gurdjieff, vous n'en avez pas eu connaissance.
Non, j'ai eu connaissance de certains phénomènes qui étaient plutôt, qui inspiraient plutôt admiration et respect.
Merci Louis Pasquier. Alors, je rappelle, vous avez évoqué le titre de Ouspensky, enfin le livre de Ouspensky, dont vous pouvez...
Fragment d'un enseignement inconnu.
Qui est paru où? Vous avez en mémoire l'éditeur, non? Bon, on le trouvera et on le donnera...
Pas, mais c'est dans toutes les librairies ésotériques...
Dans toutes les bonnes librairies et dans quelques mauvaises charcuteries dont le propriétaire n'est pas très ordonné. Et puis, non, alors il y a un livre qu'on peut trouver facilement, c'est Rencontre avec... dans lequel il y a un chapitre qui est consacré à Gurdjieff.
Un petit chapitre.
Les autres étant consacrés à Schwaller de Lubitsch, à Daniel Lou et à Benoît. Hubert Benoît, qui n'a rien à voir avec Pierre.
Pas du tout, une homophonie, comme on peut dire, comme on dit d'ailleurs.
C'est un bon livre, hein. C'est paru, où est-ce qu'on se le procure chez Axis Mundi, ça existe toujours, Axis Mundi?
Oui, on se procure chez... Ah, Dervy.
Et puis si vous venez, chers auditeurs, ce que vous ne manquerez pas de faire le 16 juin à la journée du livre de Radio Courtoisie...
Faites un appel pour le 16 juin, pas pour le 18, donc.
Je veux bien faire l'appel du 18 juin, mais pour autant que je me souvienne, ça c'est déjà pris.
Oui.
Donc vous pourrez rencontrer Louis Pasquier, vous pourrez l'interroger sur Gurdjieff et sur tant d'autres choses. Et sur son écologie. Il vous en reste des écologies traditionnelles?
Un petit peu. Ah,
bon, donc on peut les commander chez vous. On les trouvera d'ailleurs le 16 juin.
À votre stand, monsieur.
Voilà, à mon stand, enfin au stand du Libre Journal du mercredi, le 16 juin. J'espère que vous viendrez nombreux. Vous pourrez rencontrer Louis Pasquier, vous pourrez rencontrer Marie-Antoinette Mulot. Madame Herboriste, elle viendra.
Et aussi le pasteur Blanchard, il l'a dit tout à l'heure.
Le pasteur Blanchard, voilà.
En tout cas, merci de m'avoir reçu.
Est-ce que je peux placer une petite annonce?
Va donc, ma fille.
Alors, ce soir, dans le cadre du cycle de Clovis à nos jours, les grandes politiques qui ont fait la France, sous la présidence de Georges-Paul Wagner, conférence de Bruno Maigret, délégué général du Front National, député au Parlement européen. Ça a lieu à 20h30 précise au musée social 5 rue Lascazes, Paris 7e. Participation aux frais 40 francs. Étudiants et chômeurs 20 francs.
Et participation au show parce qu'il...
Aujourd'hui, c'est le frais de toute façon. Ouais. Et alors, le pasteur Blanchard qu'on a vu tout à l'heure passe sur Europe 1 le samedi 18 à
8h30. Je dors,
On nous demande de rappeler les coordonnées du livre de Marc Dehme, 666 Antéchrist. Marc Dehme.
Je ne connais pas.
666 Antéchrist.
Vous connaissez Cécilia?
Alors,
un peu, oui.
Il faut. L'adresse, c'est Yotacom, boîte postale 52, 18100.
Hein?
Non, 78100, Saint-Germain-en-Laye.
Non, 78100,
Saint-Germain-en-Lex.
Voilà.
Cédex.
En-Lex.
Est-ce que vous pouvez nous donner le prix?
Non, je l'ignore. Je suis désolée.
C'est pas cher.
Mais enfin,
allez, mettez 100 francs et ça fait la rue Michel, comme disaient les chauffeurs de taxi.
Alors, peut-être 110 francs, franco, oui. Quelque chose comme ça.
Quand même, 110 francs.
Ah, quand même.
Ah, là.
Allez, franco.
Allez. Mais c'est un très, très bon livre. On va en parler.
C'est un excellent livre. Ah, oui. Et puis alors,
très, très passionnant. Le père Amish, enfin le père, il n'est pas père, mais le Amish, Daniel, vous connaissez Daniel Amish?
Ça va, il n'est pas de l'autre côté de la glace, vous pouvez parler.
Il trémule depuis qu'il a lu ce livre. Il trémule. Voilà, prenez votre dictionnaire, cherchez, trémulez.
Cherchez et vous trouverez.
Et vous trouverez.
Trémule de Villers, non?
Trémule de Villers, absolument.
Pouvez-vous nous redonner le numéro de téléphone que vous avez cité, je ne sais pas lequel, je suppose que c'est la mère agitée, alors je dis que c'est 43 35 56 64.
Ah non, c'est le... Oui, il y a ça. Si vous voulez venir dîner avec nous ce soir, c'est 43 35 50... Combien? Vous avez dit, je ne sais plus, moi déjà...
43 35 56 64.
Téléphonez pour savoir s'il reste des places. Non, ça doit être le numéro aussi de Blanchard qui veulent.
Et puis...
41 12 10 67, le pasteur Blanchard.
Ça, c'est le pasteur Blanchard. Et puis, pour terminer, sur votre indicatif, alors on vous dit que vendredi soir, dans Faut pas rêver, on a entendu au fin fond de la Sibérie une vieille dame parlant français chanter... Le chant qui ouvre l'émission.
Ah, ben hein? Voilà, très bien.
Et quelqu'un vous donne quand même un petit conseil sur si vous avez envie de changer. On vous suggère Fonchon comme indicatif de votre émission. Parce que voilà un chant bien de chez nous, entraînant et surtout plein de gaieté. Soyons gais, car nous allons gagner. Et cela les ennuie.
Les emmène à la campagne.
Voilà.
mon excellente femme de mère. Alors, Ouspensky, c'est chez Stock. Voilà. Cécilia, pardon d'avoir gratté sur votre temps.
C'est un petit peu l'habitude.
On va écouter un tout petit peu de musique, et ensuite, on va parler de fleurs.
Mais vous allez déborder. Bonsoir aux auditeurs, toujours ravi de les retrouver. Je vais faire quelques annonces très rapides avant de présenter mon invité. Alors, uniquement pour que nos auditeurs sachent que la France est toujours en pointe dans l'art floral, je vais mentionner une manifestation à Saint-Pétersbourg du 6 au 13 juin, à l'occasion de l'ouverture des grandes eaux du parc que Pierre le Grand avait fait créer sur la Baltique. Une exposition internationale d'art floral sur le thème « Musique des nuits blanches » se tiendra et y participeront au milieu des Russes, des Belges, des Sud-Africaines, des Américaines, des Italiennes, un groupe de Françaises auquel se sera jointe une Maltaise. Nous avons une amie maltaise qui vient toujours avec nous. Et maintenant, nous allons faire un petit retour en France pour annoncer une autre manifestation qui se tiendra au parc de Saint-Cloud, c'est plus accessible, autour de la Grande Cascade. Du vendredi 31 mai au lundi 3 juin, c'est la troisième édition d'une exposition vente qui s'intitule L'art du jardin, de 10h à 20h, les jours que je viens de citer, le 18 pour, jusqu'à 18h pour le lundi. Les entrées sont de 55, 40 et 30 francs selon les cas, n'est-ce pas, groupe, enfants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Je n'ai pas le programme détaillé parce que je n'ai pas reçu leur dossier, je suppose que le facteur est le coupable. Je vais donc donner un numéro de téléphone où les auditeurs pourraient se renseigner. C'est le 47 04 39 12. Je signale quand même que lors de cette manifestation, aura lieu le lancement d'un livre de Catherine Larose. Catherine Larose nous intéresse car elle sera sans doute mon invitée au mois de juillet pour un autre de ses livres. Et celui-ci, qui s'appelle Un jardin pour soi, et qui est
aux éditions
Actes Sud, sera donc présenté à cette occasion, nous en reparlerons. Et je voulais présenter un autre livre de Catherine Larose, je l'annonce seulement parce qu'elle verra nous en parler elle-même, qui s'intitule « L'âme parfumée des jardins », qui est publié par une jeune maison d'édition extrêmement sympathique, Alain de Gourcuff, et qui coûte 360 francs, mais c'est un livre tellement bien présenté, tellement joli, sous coffret, que je pense que ça pourrait peut-être faire un joli cadeau de fête des mères. C'est une chose qu'on demande de temps en temps. Et alors, les choses s'imbriquent.
Ah, c'est bientôt, oui, c'est vrai.
De façon très amusante, Actes Sud, qui est donc l'éditeur du livre qui sera présenté à Saint-Cloud, enrichit au fil des mois sa ravissante petite collection intitulée Le nom de l'arbre.
Qu'est-ce que c'est joli,
c'est extraordinaire.
Très agréable.
Un enchantement.
10-19, au
comme
prix modique,
Actes Sud, d'ailleurs.
69 francs l'un. Et voici venu donc récemment le hêtre, le châtaignier, le platane, le saule, le frêne, ils en annoncent d'autres. Alors on peut accueillir.
Il y a l'arbre tout court, pardonnez-moi.
Oui, j'y reviendrai, je l'ai reçu aussi, mais j'y reviendrai. Ainsi que le calendrier.
Là, il est à son aise.
Là, je parle seulement des arbres, des titres des arbres.
Des essences.
Voilà, des monographies sur les arbres. Alors, les auteurs et les illustrateurs sont différents. Chacun semble jouir d'une assez grande liberté, bien que le plan soit toujours à peu près le même, avec des titres de chapitres différents. On présente l'arbre choisi, ensuite on donne des indications sur sa culture, on parle de ses utilisations, et puis, alors là j'ai le frêne en main, le frêne dans l'imaginaire et dans la littérature. Les mots du frêne, les livres du frêne. C'est vraiment une très très jolie petite collection. Et je pense que tout le monde peut en acquérir. Et si on acquiert la collection complète, on a une encyclopédie très originale sur l'arbre. Alors, Madame Patricia de Nervaux, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Je crois que c'est quand même très sympathique parce que vous êtes certainement très occupée étant donné la manifestation que vous préparez pour la fin de semaine, n'est-ce pas ?
Salut.
Vos auditeurs l'apprécieront. Alors, vous êtes
Alors, l'une des propriétaires d'un très beau domaine, le domaine de Courson. Alors, comment ce domaine est-il venu en vos mains, peut-on dire?
Eh bien, écoutez, effectivement, nous sommes quatre propriétaires, en fait, de ce domaine. Mon mari, donc Olivier de Nervaux, sa sœur Hélène, qui a épousé Patrice Fustier. Et ce domaine, nous en avons hérité en 1975. Donc, depuis cette date, nous sommes efforcés, si vous voulez, de faire vivre à la fois le château, qui est donc un magnifique château briques et pierres du XVIIe siècle, et le parc, dont la particularité est d'avoir été complètement transformé au XIXe siècle. Donc voilà, c'est cette espèce
en gros,
de...
voilà le décor planté.
De dualité, oui, entre un château XVIIe et un parc XIXe qui fait un peu la spécificité, l'originalité de Courson. Et le parc est, j'allais dire, aussi intéressant.
Le parc à l'anglaise ou à la française?
Peut-être plus intéressant. C'est un parc à l'anglaise qui a été admirablement dessiné par deux paysagistes extrêmement connus au XIXe siècle, donc Berthaud, sous l'Empire, et ensuite les frères Buller, qui sont les auteurs de parcs extrêmement fameux, comme celui de la Tête d'Or à Lyon, le parc de Rennes, etc. Et il y a toujours eu, au fond, une continuité sur le plan de la création de jardins, et c'est ce qui fait que c'est encore toujours un très beau parc.
Pardon de vous interrompre, on change la... Oui, enfin, on fait la voilà, l'interruption de 19h30 et vous avez la parole.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur les bouquets satellites CanalSat et TNTSat, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
Voici un message d'Elisabeth Depré, animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados.
Je m'appelle Elisabeth Depré. Je suis l'animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados. Lorsqu'Henri de Lesquin m'a demandé, à moi, simple auditrice, de m'adresser aux autres auditeurs pour leur dire l'importance de se battre pour l'existence de Radio Courtoisie, je n'ai pas beaucoup hésité. Je pense que nous avons une mission à accomplir au service de notre chère radio, pour la remercier du bonheur qu'elle nous procure et de l'ardeur qu'elle met à défendre notre pays. J'ai découvert Radio Courtoisie par hasard en cherchant un bulletin météo. J'ai vite compris que je venais de trouver une radio exceptionnelle. Radio Courtoisie est devenue pour moi un antidote au conformisme. Elle rythme ma vie et remplit toutes mes attentes. Grâce à elle, j'ai cessé de me sentir un dinosaure, car je sais maintenant que de très nombreux auditeurs partagent les mêmes valeurs que moi. L'idée que notre radio puisse disparaître m'est tout simplement insupportable. Je ne peux même pas imaginer l'isolement et le désespoir dans lesquels nous risquerions de retomber. Il ne faut pas que cela arrive. Je vous ai expliqué avec mes mots pourquoi Radio Courtoisie est importante dans ma vie, comme elle l'est sans doute dans la vôtre, pourquoi je lui donne et pourquoi vous devez vous aussi lui donner. J'espère donc que, comme moi, vous allez cotiser et vous battre pour que vive Radio Courtoisie.
C'était un message d'Elisabeth Depré, animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados. Si vous aussi vous souhaitez créer votre cercle d'auditeurs ou être mis en relation avec Elisabeth Depré, appelez notre secrétariat au 01 46 51 00 85 ou adressez-nous un courrier avec vos coordonnées.
Excellente nuit à tous, chers auditeurs. Merci de la passer en notre compagnie. Tout à l'heure à 5h, je vous rappelle que comme tous les dimanches, débuteront les programmes de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Et qu'à 6h, vous pourrez suivre l'émission Chant Grégorien proposée par Patrick Banquien, le président d'Una Voce. Mais tout de suite, voici la seconde partie du libre journal de Serge de Beketch du 15 mai 1996. Seconde partie dirigée par Daniel Amiche. Vous écoutez Radio Courtoisie dès 3h30.
Dans le froid et la vague.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Beketch, dirigé en cette seconde partie par Daniel Amiche, assisté de Pierre Emmanuel. Document d'archives du 15 mai 1996, rediffusé dimanche 22 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Cécilia, je crois que Daniel Amiche vous fait grâce de quelques minutes. Il a disparu.
Il a été conquis par Patricia de Nervaux, je crois.
Comme je le comprends, femme de goût.
Alors, votre belle-sœur me disait au téléphone que votre grande chance était d'être quatre, que le frère et la sœur étaient d'accord pour relever ce domaine, mais que leur conjoint également. Et je crois que vous épaulez grandement.
Absolument.
Comme ça.
Alors, certains pensent que c'est très difficile de s'entendre à quatre. C'est vrai qu'il faut tout de même faire quelques efforts. Et je crois que c'est une chance quand on a quelque chose, un patrimoine aussi lourd à gérer. Et en fait, chacun jouant sa partition, si vous voulez, aucun ne marche sur les plates-bandes du voisin.
C'est le cas de le dire.
Et il y a une harmonie qui permet finalement d'avancer et de faire progresser ce parc qui est notre...
Quelle est la surface de la superficie?
Le parc fait 30 hectares à l'intérieur des murs. Oui, à l'intérieur des murs. Mais disons qu'il y en a à peu près la moitié qui est réellement cultivée, c'est-à-dire le reste sont des bois. Que nous entretenons, oui. Enfin pas de la même façon.
Est-ce que vous avez des...
Autour d'un étang. Hein,
vous avez un potager, vous avez une roseraie, vous avez des choses comme ça.
Alors, nous n'avons pas de potager pour l'instant et pas de roseraie. Il existe un potager, mais pour lequel nous avons des projets, mais qui ne sont pas encore réalisés. Alors, si vous voulez, le parc, en fait, l'essentiel du parc est axé autour d'un étang absolument magnifique qui a été créé par Buller.
Voilà.
Et toutes les plantations de rhododendrons, d'azalées, les principaux spécimens botaniques du parc un petit peu partout, mais principalement, si vous voulez, autour de...
Il faut dire quelque chose qui plaira peut-être à Louis Pasquier, je ne sais pas si ça va le plaire, mais en tout cas, c'est vrai, c'est que très très souvent, et surtout dans le cas des frères Buller, l'acte de construire un parc est un acte qui a une dimension religieuse.
Ah, tout à fait. C'est Ken Russell qui disait, Russell Page qui disait que, en fait, tout jardin devait être l'expression d'une foi. Mmh. Et en fait, c'est magnifique.
C'est pour ça que c'est très intéressant de visiter un parc, parce qu'il faut aller dans cet esprit et essayer de comprendre ce qu'a voulu dire le créateur.
Je signale d'ailleurs, puisque vous me faites penser à cela, le livre de Pascal de Gagnière, qui va être présenté à Courson et qui va faire l'objet d'une conférence par son auteur dimanche matin. Très intéressant sur justement les jardins d'Albert Kahn. Et c'est tout à fait dans l'optique, si vous voulez,
de ce que vous êtes en train d'aborder. De la bibliothèque, c'est ça.
Voilà. Ce qui s'intitule Le jardin d'une idée.
Albert Kahn est un personnage tout à fait fascinant.
Qui était l'ami d'Ernest de Caraman, le grand-père de mon mari et de ma belle-sœur. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de Berthaud et de Buller, mais en fait, la chance de ce parc, c'est qu'à toutes les générations, il y a eu au fond des hommes passionnés par l'art paysager. Et le grand-père de mon mari était absolument passionné par ce parc. Il nous a certainement transmis cette passion.
Sinon...
Et nous-mêmes, nous avons continué avec l'aide de paysagistes comme Timothée Vaughan et d'autres depuis.
Et alors, vous est venue l'idée d'ouvrir ce parc au public?
Tout à fait.
Et de là sont nées les Journées des Plantes de Courson.
Absolument.
Qui ont lieu chaque année au printemps, c'est-à-dire en mai et en octobre.
Et en octobre, oui.
Et alors là, on voit une progression. Vous avez commencé en 1983 avec 600 visiteurs. Bon, et alors on voit d'année en année 2000, 4000, 13000, et on en arrive à 35000 maintenant par an. 35000 en 92, et je crois que ça s'est stabilisé.
En combien de temps? Au cours de l'année, c'est...
Alors
En deux sessions.
35000 en deux fêtes.
En trois jours, en deux fois,
en
trois,
deux fois
jours.
Trois jours.
C'est-à-dire trois jours maintenant, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai, et puis les prochaines journées sont en octobre. Toujours les troisièmes semaines du mois de mai et du mois d'octobre.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On se promène dans le parc?
Alors on va y venir, on va vous donner le programme.
Beaucoup de choses à Courson.
Je vois qu'entre autres qu'en 1994 a eu lieu le lancement du livre que Henri Delbar est venu présenter l'an dernier, il a eu beaucoup de succès, Rose, mon carnet d'émotions. Et malheureusement, il n'est pas libre pour la journée du livre de Radio Courtoisie, parce que je crois que les auditeurs auraient aimé le rencontrer. Donc cette année, on arrive à la 24e édition des Journées de Courson. Alors, les dates.
Alors, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h. Mais avec cette précision que la matinée du vendredi est réservée aux professionnels.
Aux professionnels, voilà. Oui, en général, c'est parce le cas dans tous les...
C'est une manifestation qui s'adresse aux amateurs, à tous les passionnés de botanique, de tous les passionnés de plantes, mais également aux professionnels.
Bien sûr.
Donc, le premier jour, la matinée jour est réservée aux porteurs de cartes professionnelles, de fleuristes, de horticulteurs, etc.
Oui. Vous pourriez venir, vous pourriez venir le vendredi matin.
Voilà, je suis fort
flatté. Ça vaut mieux de venir en foule, vous savez.
Oui, je vous conseille.
Et à partir de 13h, voilà, de 14h, tout le monde peut venir.
Tout le monde peut venir, absolument.
Alors, avec un programme extrêmement dense, des quantités de stands, on va en énumérer quelques-uns. Cette année, Courson fête les ostas.
Voilà. Alors, nous avons un pépiniériste belge tout à fait extraordinaire qui s'appelle Van Dorsler et qui va, nous présenter.
Enfin, quand il ne s'appelle pas de Belder, il s'appelle.
Une collection de 300 pieds-mères d'ostas. C'est vraiment le spécialiste des ostas. En fait, il y en a d'autres, mais en Belgique, c'est le grand spécialiste des ostas. Et alors, nous sommes très heureux parce qu'il va, nous offrir, si j'ose dire, un osta domaine de Courson. Le baptême de l'osta domaine de Courson va avoir lieu vendredi après-midi.
Je suis très très confus, mais je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un osta.
Alors, vous allez nous décrire l'osta. Ce sont
Alors, c'est une énorme plante vivace.
Il y en a des très petites aussi.
Oui, il y en a des très petites aussi.
Même les nains ont commencé petits.
Je pense à celle de Van Dorsler, qui est un sacré domaine de Courson, qui aura 0,80 cm de hauteur et 1,50 m de diamètre.
Alors là, c'est un petit peu grand.
Ça va être très grand. Disons que sa spécificité, c'est qu'elle a des très grosses feuilles. Alors, avec lequel, je crois, madame, vous aimez beaucoup faire des bouquets.
C'est une plante qui se plaît partout, dans tous les sols, qui supporte toutes les expositions. Et nous, ce sont les Belges, dont nous nous moquions un peu au début, qui nous ont appris à les utiliser en art floral. C'est une merveille. Et maintenant, toutes les Françaises ont des ostas dans leur jardin, parce que dans les bouquets d'été, c'est pour faire les points focaux, ce qu'on appelle le point focal, c'est-à-dire le centre du bouquet, l'accroche-regard. Ça stabilise un bouquet, c'est absolument merveilleux. Merci. Donc ça sera la fête des ostas à Courson. Ensuite, il y a aussi...
Alors, la fête des plantes aquatiques.
On ne peut pas tout énumérer, mais on peut parler des plantes aquatiques, puisque vous dites que c'est une des spécialités de l'année.
Oui,
donc,
qu'est-ce
qui va se passer
avec l'eau et la vie. Voilà, l'eau et la vie. Il y a une pépinière qui s'appelle Alisma, qui va présenter un certain nombre de plantes aquatiques. Également, Jacques Messin, qui est un paysagiste que moi j'aime beaucoup, qui va également présenter un jardin d'eau à côté de Piscicoy et de ses carpes d'ornement. Il y aura également une pépinière qui est extrêmement spécialisée dans les plantes aquatiques et qui cette année qui a toujours servi, j'allais dire, les professionnels, mais qui cette année fait un effort pour les particuliers, j'allais dire particuliers, parce qu'elle va présenter des plantes aquatiques en conteneur. Et ça, c'est formidable, parce que ça permettra de garder les plantes, même si l'eau venait à diminuer de niveau, on ne perdra pas ces plantes aquatiques, ce qui quand même a des problèmes. Et puis, il y a également un paysagiste qui s'appelle Jean-Louis Legrand, qui va présenter ses techniques de...
Une collection de nymphées.
Voilà.
Mais techniquement, ça représente un travail phénoménal de monter des journées comme
c'est
ça.
C'est un travail de toute l'année. Oui, c'est un travail de toute l'année.
Il faut préparer.
Ah non, alors c'est mon beau-frère, Patrice Fustier et Hélène, qui, si vous voulez, ont toute une petite organisation, très modeste quand même, mais qui fonctionne toute l'année. Et c'est certain que c'est...
Et vous avez des jardiniers
Alors, sur place, donc pour notre parc, nous avons un jardinier, ça s'appelle Monsieur Guillemot, un seul jardinier, qui est très compétent, très efficace, et que je vois régulièrement, et qui est depuis 2 ou 3 ans bénéficie de l'aide de quelques stagiaires, à mi-temps, vous voyez, parce que nous avons un accord avec une école, et qui donc apporte une petite aide. Et nous sommes très outillés. Nous avons pas mal de...
Maintenant, oui. Vous l'étiez moins.
Au début, nous l'étions moins.
L'année où vos rhododendrons ont grillé, vous étiez moins outillés.
La première année, en 1976, lors de la sécheresse, qui était un an après que nous ayons repris le parc, et quand nous avons vu nos rhododendrons décliner, là, ça a été le coup d'envoi, disons, de notre prise de conscience de ce que c'était que l'entretien d'un parc.
J'ai jeté un coup d'œil à la mer de sable pour voir si vous n'alliez pas pouvoir faire la même chose.
Alors, voilà. Quelque chose aussi de certainement intéressant, les vanilliers par Marcel Lecouf. Alors, Lecouf, c'est une conférence ou une présentation?
Alors, c'est une présentation grand spécialiste d'orchidées. Cette année, il nous présente, en plus de ces magnifiques orchidées, il nous présente des vanilliers avec toute une documentation et puis aussi des plantes.
C'est Nero Wolf, non?
Qui est ce
spécialiste des orchidées?
Marcel Lecouf, qui est un des grands des orchidées, avec Vacherot Lecouf également. Et la spécialité de Courson, je dirais, c'est que nous présentons énormément de collections de plantes. Collections de toutes sortes, aussi bien de pélargonium que de ginkgo biloba, de liquidambar, de fougères, d'ostas, de roses, de pivoine. Enfin, nous avons vraiment des spécialistes parmi les pépiniéristes, des vrais spécialistes en botanique et
d'autres plantes. Alors, parmi les conférences, un hommage à Victor et Émile Lemoine, célèbres
producteurs
français qui
sont à l'origine de centaines d'hybridations.
En pivoine, entre autres, et en rose. Alors, parmi les stands, alors un autre de nos amis, Jean-François Laporte, maître parfumeur
et gantier,
qui crée cette année une nouvelle eau de toilette, fraîche, opulente et légèrement poivrée, et qui s'intitulera Une rose, un château.
Ça me semble agité.
Quel talent il a, cet homme.
C'est extraordinaire. Ah, mais lui, il est prêt à revenir toutes les semaines, si vous le voulez. Il adore Radio Courtoisie.
C'est vraiment une... Vous le connaissez ?
Oui, tout à fait, parce qu'il expose à Courson depuis plusieurs années. Il y a un stand à l'intérieur des écuries qui est merveilleux.
Un grand raffinement.
Oui, très raffiné. Et il faut absolument venir à Courson pour le voir et le respirer.
Il faut répéter les dates des journées de Courson.
Alors, il faut dire qu'il y a aussi des choses pour les enfants, n'est-ce pas ? Particulièrement...
Absolument, il y a la ferme européenne des enfants qui donc offre une initiation aux enfants de jardinage, j'allais dire. Il y a également Francis de Jong et Forêt de France qui font monter les enfants dans les arbres. C'est un spécialiste d'élagage.
Ça, c'est pas très difficile.
Non, mais avec toute la technique des élagueurs. Oui. Et les enfants adorent, ils sont absolument ravis.
Une toute petite mention pour une exposition un petit peu originale qui s'intitule « La rose et le rosaire ». Présenté par le père François Diot, dominicain, et l'association du Rosaire de Paris.
Voilà, qui se tiendra dans la chapelle, en face des écuries.
Alors maintenant, les détails pratiques. Comment va-t-on à Courson ?
Alors, on va à Courson. D'abord, je dirais peut-être que Courson se situe près du village de Courson-Monteloup, qui est à 10 km d'Arpajon, de Dourdan, de Limours. On y accède très facilement par l'autoroute de Chartres, par l'autoroute du Sud, et également par le train, par le RER ligne C. Montez dans les 4 premiers wagons, surtout, et prenez la direction de Dourdan, en vous arrêtant donc à Breuillet, Bruyères-le-Châtel. Et là, vous avez une navette qui, toutes les 10 minutes, vous emmène au domaine de Courson.
Ah bah c'est formidable.
Le prix d'entrée, je crois.
Oui, le prix d'entrée, non, on ne l'a pas encore dit.
60 francs, avec des réductions pour toutes les catégories.
Et puis
possibles.
Peut-être un numéro de téléphone si
pour les enfants de moins de 6 ans. Oui, alors 64 58 90 12.
Voilà. Merci beaucoup.
Ben, merci vous à vous de nous avoir accueillis. Et bonne chance.
Beaucoup de charme et beaucoup de beauté.
Il y a un ou deux slogans sur Courson qui sont très amusants. À Courson, c'est toujours Courson qui donne le ton.
Oh, ma chère.
Voilà. Et je souhaite que ce soit.
Donc, vendredi 17 mai à partir de 14h, samedi 18 mai de 10 à 19h, et dimanche 19 mai de 10h à 19h, domaine de Courson. Voilà. Puis vous parliez du rosaire, je vous signale que la croisade du rosaire continue et que pour tout renseignement, on peut écrire 84 avenue Aristide Briand, 92 120 à Montrouge. Ça, c'est une chose. Et puis, je vois rentrer le père Amiche qui va me chasser coup de pied. Donc, vite, je vous signale que Fait et Document est paru. Fait et Document, c'est une lettre d'information politique qui était faite par Emmanuel Ratier, qui est passionnante. Alors, pour tout renseignement, boîte postale 25409, 75 424 Paris, CEDEX 09. Encore une adresse à dormir dehors avec un billet de logement. Mais bourré d'informations. Nos amis du Cœur Montjoie Saint-Denis vont s'éloigner de Paris, alléluia, ils vont aller à Houdan pour chanter, on peut espérer qu'on n'entendra pas. Non, je plaisante, bien sûr, il faut aller. Alors, l'hôtel de ville de Houdan les reçoit, et ça se passera le samedi 8 juin 96 à 20h30, dans le cadre du 50e anniversaire du syndicat d'initiative de Houdan. Ils vont venir avec leur... Ils sont beaux maintenant, ils ont des uniformes superbes. Action étudiante pour l'Ukraine, il me demande de rappeler son adresse. Ils font un petit bulletin que vous pouvez demander. C'est 42 rue de la Bellefeuille, 9200 Boulogne. Vous savez qu'on les avait reçus il y a quelques semaines. 46 04 69 79. À la Maison Roumaine, passionnante conférence le 17 mai sur Mircea Eliade et son œuvre, avec des allocations de messieurs les professeurs Mélin, Jouffre de la Pradelle, communication de Nicolas Balota, Julien Ries, Claude-Henri Roquet, Natal Espineto, Alexandru Kalinescu, et la présentation samedi 18 d'un film de Paul Barbanegra, l'admirable Barbanegra qui a fait toute la série des Tu connais ça, Daniel.
Barbanegra,
qui est un génie avec un génie de l'image et qui a fait des films avec Jean Faure, très très beau, sur le Mont Saint-Michel, Reims, Versailles, etc. Donc là, il a fait un film sur Mircea Eliade, qui est un personnage considérable, n'est-ce pas, Louis Pasquier? Je pense que c'est quelqu'un qui vous intéresse.
C'est pas tout, mais enfin.
Voilà, 15h, Mircea Eliade, film de Barbanegra, le samedi 18 mai, à la maison roumaine Casa Romanesca, 120 rue Axo. J'espère que Sergiu ne va pas m'égorger pour avoir prononcé du roumain avec un accent si déplorable. Il paraît que je suis très peu courtois vis-à-vis de Daniel Amiche.
Mais c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas quelle est l'auditrice stipendiée qui envoie ce message, mais c'est
donc 120 rue Axo, la maison roumaine. Et puis, dernière chose, lundi 20 mai au centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, métro Maubert Mutualité, séance à 19h et à 20h30, où vous pourrez voir le très beau film de notre excellent camarade Bernard Anthony sur notre non moins excellent camarade Clovis. Prénom ?
Prénom et nom famille, c'est pareil.
Prénom Clovis, voilà. Bonsoir, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes supplémentaires, Daniel. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Bonsoir, rebonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous retrouvent pour cette seconde partie de l'émission. Alors ce soir, nous allons avoir trois thèmes dans cette seconde partie. Le premier thème, Clovis, le deuxième thème, Clovis, et le troisième thème, Clovis. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel de sourire à mes saliers radiophoniques.
Je souris.
C'est surtout, vous avez du mal, vous souriez jaune parce qu'en plus, nous sommes privés de lumière et donc, pour vos petites brèves, ça va être très très compliqué.
Je vais vous emprunter la lampe, excusez-moi.
Écoutez, allez-y, voilà, ne vous gênez pas, faites comme chez vous surtout. Hein. Alors, non, on va commencer tout de suite par les brèves et puis ensuite, nous présenterons les invités de ce soir.
Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va permettre d'abord une conférence du professeur Michel Rouge que nous recevons ce soir. Je vais annoncer la conférence tout de suite. Une conférence organisée par les associations familiales catholiques de la Fédération de Paris sur le thème évidemment France, fille aînée de l'Église, de l'an 496 à l'an 1996. Clovis, sa conversion, son baptême, souvenir du passé ou engagement pour l'avenir. Donc vraiment tout un programme, toute une soirée je pense. La conférence aura lieu le jeudi 23 mai 1996. Cette année, à 20h30, au centre Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, dans le 8e arrondissement.
Mais vous avez peut-être aussi le téléphone des AFC de Paris.
Alors, le numéro de téléphone pour les renseignements, c'est le 45 85 07 27.
Alors, on redit une fois le téléphone. Bien sûr, ici, c'est un numéro de téléphone à Paris, donc nos auditeurs de Paris font directement ce numéro, mais nos auditeurs de province sont obligés de faire le 16.
Voilà, alors 45...
Enfin, jusqu'au mois d'octobre, parce qu'après, on va tous avoir 10 numéros, ça va être parfait.
Ça va pas simplifier les choses.
Alors, le numéro
alors 45 85 07 27. On va laisser le numéro standard pour les gens qui
voudraient
renseignements. Le jeudi 23 mai à 20h30.
Parfait.
Les rencontres culturelles de Paul Bieler dans la prochaine a lieu samedi prochain, le 18 mai. La première aura pour thème donc Saint-Roch, ses œuvres d'art, ses morts illustres, Corneille, Le Nôtre, Mignard, Duguay-Trouin, la grandeur du 18e siècle.
Que du beau monde.
17e siècle. Que du beau monde. Rendez-vous, que du beau monde, évidemment, à donc l'église Saint-Roch. Le rendez-vous est à 14h45 à l'entrée de l'église qui se trouve 296 rue Saint-Honoré. C'est le métro Tuileries ou Pyramide. Voilà, donc le 18 mai. Puis j'annonce tout de suite celle du 22 mai qui aura lieu à la chapelle expiatoire et le cimetière de la Madeleine. Évidemment, le calvaire de Marie-Antoinette. Le rendez-vous sera à 14h45, square Louis XVI. Voilà. Et puis, comme je suis absolument ébahi devant la qualité de ce magazine, je veux rappeler encore une fois.
Petit coup de bonbon. Remettez-le un petit coup de bonbon, c'est bonbon.
Je voulais resignaler la sortie de ce magazine qui s'appelle donc Bourbon, qui est un 16 pages couleur, magnifique, avec des tas de thèmes différents. C'est un bimestriel, c'est ça ?
Oui.
Des tas de thèmes différents. Dans le premier numéro, c'est le mystère Louis XVII, le château de Saulle, un entretien avec l'aîné des Bourbons. Enfin, c'est très très bien. Le numéro de téléphone, enfin, on peut le trouver, je crois.
Et une contribution du professeur Jean-Paul Roux.
Bien entendu, avec un témoignage, sur les Bourbons.
Tout à fait passionnant.
Un témoignage sur les Bourbons. Jean-Paul Roux qui était venu ici, qui a écrit un livre qui est Le Roi, Mythes et Symboles. Et puis également un article généalogique. Enfin, c'est tout pour tout savoir sur le.
C'est beau, c'est bon, c'est bonbon, quoi.
Voilà. Alors, il est disponible au 22 rue Didot, dans le 14e arrondissement. Et puis également, des renseignements au 45 41 29 29. Voilà.
Très bien. C'est tout pour,
Ce soir.
Bien. Alors, merci de me redonner un peu le micro. C'est très aimable à vous. Donc, ce soir, nous recevons effectivement le thème de toute cette émission va tourner autour de Clovis. Et nous aurons d'ailleurs d'autres émissions jusqu'à la fin de l'année qui seront consacrées au même thème parce que nous nous étions engagés. Nous avons commencé très tôt à en parler sur cette antenne. C'est-à-dire, dès quasiment le début de l'année dernière, nous avons commencé à parler de cette affaire Clovis. Je reçois ce soir, alors je cite les personnes bien sûr dans l'ordre d'apparition, non pas à l'écran, parce qu'il n'y a pas l'écran encore, nous en sommes réduits bien sûr à la modulation de fréquence, mais j'ai tenu ce soir à recevoir deux amis, je peux le dire avec beaucoup de sincérité, Pierre Vaquier et Alain Brossier, qui sont respectivement président et administrateur du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, au double, triple ou quadruple motif que premièrement ils organisent tous les ans le pèlerinage de Pentecôte traditionnel de Paris à Chartres et que cette année le thème du pèlerinage, c'est « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Donc je pensais qu'il y avait là quand même un petit bout de fil qui était pas loin d'être rouge, hein, par rapport aux autres invités de ce soir. Puis également parce qu'il organise aussi un grand pèlerinage, cette fois-ci d'une structure différente du pèlerinage traditionnel, le 15 août, vers Reims. Une espèce de montée à Reims. Et puis, bien évidemment, il compte être, comme beaucoup, comme quelques centaines de milliers d'autres Français, à Reims le 22 septembre, et puis peut-être aussi quelque part vers la veillée de Noël, vers la messe de minuit. Alors ils vont nous parler très rapidement, en tous les cas, du pèlerinage de Pentecôte, de la thématique de cette année du pèlerinage de Pentecôte, et puis nous les réinviterons bien sûr pour parler plus précisément du pèlerinage du 15 août, dont nous avions déjà évoqué sur cette antenne, mais je crois que maintenant tout est à peu près bouclé. Et puis nous recevons bien sûr le professeur Michel Rouge, qui s'installe à Radio Courtoisie comme un de ses piliers, puisque nous l'avons entendu pas plus tard que dimanche soir dans une excellente émission en compagnie du professeur Louis Millet. Et nous saluons toujours la présence de Michel Rouge à cette antenne. Nous sommes toujours très honorés et très heureux de le recevoir. Et puis nous recevons également Éric Mention-Rigaud, qui vient de publier un livre d'entretien avec le cher professeur Chauny. Qui s'exprime aussi assez largement, je dois dire, sur cette antenne, et la satisfaction en tout cas des auditeurs. Mais Pierre Chenu, donc, ne pouvait pas être là ce soir, et vous a en quelque sorte délégué pour venir parler de ce livre d'entretien qui ouvre la commémoration de Clovis sur des perspectives plus, je dirais, des débats plus contemporains, qui s'ouvrent un petit peu vers l'avenir. Donc je voulais tout de suite demander peut-être à Pierre Vaquier, à tout seigneur, tout honneur, de nous dire quelques mots sur le prochain pèlerinage de chrétienté. Alors c'est quel numéro d'ailleurs? Parce qu'on s'y perd un peu maintenant, si vous en êtes à votre 13e, 14e.
Oh, c'est déjà le 14e.
14e.
Alors, 14e pèlerinage, avec toujours la même fougue, le même enthousiasme. C'est toujours exaltant de partir le samedi matin de Notre-Dame de Paris, la tête encore un peu embrumée, les jambes un peu molles, et de se lancer par la rue Saint-Jacques. C'est la rue Saint-Jacques qui nous amène sur les grands chemins des grands pèlerinages de France. Et progressivement, nous débouchons en Beauce et pour arriver à cette extraordinaire découverte de la cathédrale de Chartres, d'y pénétrer et là de se laisser complètement emporter par la si belle liturgie que nous connaissons bien, liturgie traditionnelle latine, avec ce grégorien absolument magnifique. Donc là, maintenant, il faut se préparer. On a tous nos sacs, nos chaussures quasi prêtes, nos bâtons de pèlerin.
Nos pommades anti-ampoules, nos sparadraps, enfin, toutes les choses qui vont avec, quoi.
Les baisers de maman, le quart, tout ce qu'il faut pour, effectivement, rencontrer tous ces milliers de chrétiens qui ont bien décidé de rendre un hommage à la fois personnel, mais surtout, je crois, communautaire, collectif, vis-à-vis de la Sainte Vierge, qui est notre patronne. Donc je crois que les temps s'y prédisposent à officiellement nous tous nous retrouver au coude à coude pour aller célébrer notre reine, surtout avec le thème de cette année. Nous arrivons maintenant à la troisième étape de notre Triduum, puisqu'il y a 2 ans nous avions lancé la première étape de ces 3 jours de préparation pour le 1500e anniversaire de cette fameuse nuit de Noël 496. Et nous avions repris les questions du pape à la France, au Bourget en 1980. Le premier thème, c'était France, fille aînée de l'Église, la première année. La deuxième année, c'était juste l'an dernier, en 1995, France, éducatrice des peuples. Et cette année, nous reprenons au mot près la fameuse interrogation du Saint-Père, France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Voilà les thèmes qui vont nous porter cette année, et même plus loin pour le 15 août et le 22 septembre.
Alors donc, il n'est peut-être pas trop tard pour s'inscrire au pèlerinage de cette année. Alors comment est-ce qu'il faut procéder?
Alors, je rappelle les dates, c'est le samedi 25, le dimanche 26, c'est le jour de la Pentecôte, et le lundi 27 mai 1996, donc c'est exactement dans 10 jours. Pour s'inscrire, écrire à Notre-Dame de Chrétienté, 85 rue des Chantiers à Versailles, 78 000 Versailles, soit venir directement le samedi matin à Notre-Dame de Paris, avec tout ce qu'il faut comme sac, repas et vêtements de pluie, soit éventuellement téléphoner, j'ose à peine vous le donner parce que nos lignes sont complètement saturées, beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions.
On va nous le demander, donc peut-être qu'il faut exceptionnellement...
Je le donne quand même, 39 02 35 05.
C'est un numéro en région parisienne, hein, région 39 02 35 05.
Voilà.
Alors soyez patients, amis auditeurs, si vous souhaitez téléphoner. Parce
nous sommes déjà, selon l'expression, des milliers et des milliers, mais un millier de plus, c'est toujours bien parce qu'on y éprouve une aventure humaine extraordinaire, sans parler l'aventure intérieure qui est encore plus extraordinaire.
Merci Pierre Vaquet de toutes ces précisions. Donc le pèlerinage de Pentecôte, si vous voulez plus de renseignements, c'est le 39 02 35 05. Soyez très 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 patients au téléphone parce que les lignes sont un peu encombrées. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas faire les 3 jours du pèlerinage, ils peuvent en faire 2, ils peuvent en faire 1, ou comme moi, ils peuvent faire juste l'après-midi à partir de la Villette Saint-Pré, c'est pas interdit, quoi.
Oh, mais c'est les meilleurs pèlerins, ceux qui arrivent à la fin.
Voilà, moi j'arrive vraiment à la toute fin, hein. Bon, au bivouac, et ensuite les derniers kilomètres, c'est les meilleurs. Mais je fatigue, à mon âge, je fatigue beaucoup. Alors je me tourne rapidement vers Alain Brossier pour lui demander d'avoir gentillesse de nous dire 2 petits mots, peut-être sur le pèlerinage du 15 août, puisque lui va être aussi, non seulement dans la thématique Clovis, en fait, dans la méditation religieuse sur cette commémoration, sur cette célébration, même devrait-on dire en bon français, mais également parce que c'est un pèlerinage d'un type spécial que vous avez eu l'idée d'organiser.
Oui, effectivement, le pèlerinage de cet été sera organisé différemment, puisque de très nombreuses routes partiront de tous ces sanctuaires mariaux que nous connaissons en France et ils convergeront vers le sanctuaire marial de Reims à l'occasion de cette grande fête du 15 août qui est peut-être par excellence la fête des Français.
La fête nationale, oui.
Et en son sanctuaire de Reims qui est certainement ce que l'on appelle nous la source de la France, c'est-à-dire le lieu où tout est né. En l'occurrence, ce rassemblement de Reims sera un grand rassemblement avec une messe à 15h en la cathédrale dite par le très révérend Père Argouache, que nos auditeurs connaissent bien, et qu'ensuite nous partirons vers la basilique où une grande cérémonie également de consécration et d'autres cérémonies auront lieu à la basilique avec nos amis du pèlerinage Saint-Rémy que nous retrouverons sur place. Et puis, enfin, il y aura une grande veillée scénique à l'hippodrome de Reims le soir. Et là, je dirais, très nombreux sont actuellement ceux qui s'attellent à la tâche pour que ce grand rassemblement, cette grande fête du 15 août, prenne une tournure particulièrement magnifique.
Donc c'est le principe, ce sont des chapitres qui vont partir des différentes Notre-Dame de France, enfin d'un certain nombre de... Combien de Notre-Dame de France?
Eh bien, pour l'instant, il y a 25 routes organisées, donc qui partent de Lourdes, de Notre-Dame de la Garde. Tout le chemin est fait à pied. De Lyon, Notre-Dame de Fourvière, donc Notre-Dame de Pont-Mince, je prends les principales, Rocamadour, Le Puy, et puis Foncombeau, il y en a qui partent du nord également, de Notre-Dame de Riomont.
C'est compliqué pour organiser, parce qu'il faut que tout le monde arrive à peu près en même temps, donc il faut prévoir à l'avance les temps de parcours pour que tout le monde puisse arriver à peu près au même moment, au moins au bivouac de la veille, du 15 août.
Voilà, mais c'est la chrétienté, c'est-à-dire que c'est la subsidiarité. Tous ces groupes se sont pris en main, ont organisé leur petite logistique. Certains portent leur logistique, c'est-à-dire qu'ils partent sac au dos, ils font des étapes un petit peu plus courtes, d'autres ont décidé de faire 30, 40 km par jour et ils mettent les sacs à dos dans des véhicules. Et là, je dirais, l'autonomie est de règle. Et puis on se retrouve tous le 14 pour un grand rassemblement de retrouvailles, de préparation, des forums pour présenter finalement l'importance de cet événement. Tous les pèlerins qui voudront nous retrouver, là encore une fois, au dernier moment, le 14, seront les bienvenus à Saint-Imoges ou à Faverolles, où le pèlerinage Saint-Rémy organise un autre bivouac. Plusieurs associations sont engagées dans ce rassemblement, donc ce sera certainement un très grand rassemblement qui permettra de mobiliser encore un petit peu plus les Français pour la venue du pape le 22 septembre prochain. Je pense qu'il est important de passer dans les villes, dans les villages, de passer dans ces villages en leur parlant de ces événements, parce que je crois que les jeunes n'ont pas l'occasion d'en entendre parler souvent. Quand ils branchent leurs médias, il n'y a pas tellement d'informations, ou alors c'est souvent très polémique. Je pense que dans cette occasion rare, qui est celle de ces pèlerinages, eh bien, on peut peut-être, à l'occasion d'une veillée, d'une prière, d'une méditation sur la route, retrouver quelque chose qui permette une conversion intime, ou alors une meilleure compréhension de la nature intime d'une France qui, finalement, pourrait être retrouvée si chacun faisait un petit effort.
Un petit bout de route. Et,
voilà, un petit bout de chemin. Par exemple, dès la Pentecôte, en marchant vers Notre-Dame de Chartres, beaucoup de gens se convertiraient, car chaque année, nous en voyons énormément, qui nous disent combien ils ont été retournés par ce qui s'est passé sur cette route. C'est intime, c'est très difficile de le discerner, mais c'est très fréquent.
Merci Alain Brossier. Donc, je dois dire, si je peux donner un commentaire personnel, encore que mon avis personnel n'est pas très important dans cette affaire, je trouve cette idée admirable, d'avoir eu l'idée de faire ce type de pèlerinage convergent depuis différentes Notre-Dame de France pour tous se rassembler à Notre-Dame de Reims dans une date extrêmement significative pour tout Français bien-né, qui est quand même le 15 août, qui est quand même la fête nationale numéro 1. Enfin, je veux dire, c'est quand même... en Antiquité, c'est la plus ancienne quand même, donc là... car c'est un droit sur les autres. Alors, simplement, je précise donc que pour la Pentecôte, donc le lundi Pentecôte, la messe sera célébrée par le très révérend père abbé, Don Gérard, c'est l'abbé du Baron.
Je confirme bien, c'est peut-être une nouvelle pour un certain nombre de
auditeurs. Oui, nous ne savions pas, oui.
Pour nous, nous l'avions encore au niveau de nos organisateurs et de nos différents chefs de service, tout notre encadrement. Mais là, on peut le dire maintenant, c'est donc Don Gérard, le père abbé de l'abbaye de Sainte-Madeleine, qui célébrera et prononcera l'homélie le lundi de Pentecôte, donc à partir de 15h à la cathédrale de Chartres.
Voilà, donc c'est le pèlerinage traditionnel Notre-Dame de Chrétienté de Paris à Chartres qui se passe pendant le week-end de Pentecôte, et la messe finale à la cathédrale sera célébrée par le très révérend père Don Gérard. Et puis nous avons aussi évoqué un autre pèlerinage dont nous parlerons davantage encore, tout le moins je l'espère, si vous avez la gentillesse de venir nous en parler encore plus dans le détail. C'est celui que cette même association, donc pèlerinage de Chrétienté, organise pour converger à Reims le 15 août.
Et pour préparer la venue du pape le 22 septembre, nous avons également d'autres initiatives en boîte.
Alors, nous en reparlerons, parce que je sais que vous ne manquez pas d'initiatives, mais nous manquons un peu de temps, par contre. Alors donc, nous aurons l'occasion, évidemment, de reparler tout ça. Avec très plaisir de vous recevoir un peu rapidement, excusez-moi, mais restez, bien sûr, vous êtes les bienvenus dans ce studio. Et donc, je redonne tout simplement l'adresse de l'association pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. C'est le 85 rue des Chantiers, 85 rue des Chantiers, 78 000 Versailles. Et puis, qui à me faire taper sous les doigts par Pierre Vaquet, je redonne quand même le téléphone de l'association. C'est le 39 02 35 05. 39 02 35 05. Voilà, ça c'était pour la partie, je dirais, un peu magazine de l'année Clovis. C'est un aspect, c'est une contribution parmi d'autres, beaucoup d'autres, à cette commémoration. Il en est de plus universitaire, mais tout aussi fondamental. Et parmi l'ensemble de ces contributions d'importance et d'intérêt à la commémoration du 15e centenaire, il y a bien sûr l'apparition du livre du professeur Michel Rouge, qui s'appelle tout simplement Clovis, et qui vient d'être publié aux éditions Fayard, et qui d'ailleurs marche très très bien, puisqu'il y a une première réimpression qui vient de se faire. Alors il y avait peut-être un fort effet d'annonce, nous avions beaucoup parlé de ce livre, nous en attendions beaucoup, et je dois dire, très honnêtement et très sincèrement, nous ne sommes pas déçus, parce que vraiment c'est un livre tout à fait de grand poids, si je puis dire, au sens propre et au sens figuré. Alors il l'est parce que c'est le travail, on peut dire, de toute une vie de recherche, puisque vous avez consacré peut-être 30 ou 35 ans de votre vie à étudier ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, et en même temps c'est un livre très novateur en ce qu'il nous donne tout d'abord un point de vue qui est jusqu'à plus ample informé, jusqu'à de plus amples découvertes archéologiques et historiques. Ce livre fait vraiment le point. Au plan historique, on est tranquille. Et il pousse l'honnêteté, le scrupule universitaire et la bienfaisance intellectuelle jusqu'à publier en fin de volume, ce livre, des traductions nouvelles, et nous aurons peut-être un petit mot là-dessus, sur tous les textes qui sont précisément, qui traitent de l'affaire Clovis. Alors Michel Rouge, merci d'être avec nous, vous voyez qu'on est aimable, on ne peut pas être plus aimable, n'est-ce pas? Mais vraiment, je le pense sincèrement, c'est un livre qui va faire beaucoup de bien. Certainement, il va intriguer quelques personnes, parce que un certain nombre de thèmes légendaires qui tournent autour de Clovis, et qui sont de pieuses légendes, qui ne sont pas des choses pécamineuses, qui n'en vont pas en enfer, évidemment, ne sont pas malmenées, mais ne sont pas traitées, parce qu'elles ne sont pas historiques. Il y en a deux, notamment, sur laquelle je voudrais que vous puissiez vous exprimer. La première, c'est la date du baptême. La deuxième, c'est la Sainte Ampoule, la Colombe, et la troisième, c'est le Sacre. Voilà trois petits points que j'aimerais, un zakouski, si vous voulez, en amuse-gueule, que vous commenciez, s'il vous plaît, à nous entretenir de ces choses.
Je vous remercie de votre accueil, c'est toujours très agréable, et je crois qu'effectivement, il est indispensable que ce 15e centenaire puisse être établi sur des textes historiques solidement commentés et traduits, afin que nous puissions, d'une part, montrer que la connaissance historique progresse, et que d'autre part, plus cette connaissance historique progresse, plus la vérité historique est encore plus enthousiasmante que celle que l'on avait jusqu'alors. Le problème de la date du baptême a été soulevé évidemment dès le début des premières initiatives concernant ce 15e centenaire. Le 14e centenaire avait eu lieu en 1896, parce que on était resté sur une interprétation d'un texte de Grégoire de Tours, selon lequel le vœu fait à la bataille de Tolbiac, victoire obtenue en l'année 496, ce vœu aurait été immédiatement suivi d'application. Et par conséquent, on supposait que la bataille ayant eu lieu, mettons, en juillet 496, le baptême avait lieu en décembre 496. Or, l'érudition universitaire, dès les années 1930, s'est lancée dans des batailles prodigieuses, comme seuls savent les pratiquer les universitaires entre eux. On a proposé, en interprétant les textes plus ou moins diversement, des dates toutes plus ou moins fantaisistes les unes que les autres. Il a été question de 506, de 508, de 498, de 499, etc., etc.
Or, c'est presque un loto, c'est le fameux loto record qui va être tiré ce soir.
Tout à fait, tout à fait. Or, j'ai voulu commencer par le commencement, à savoir reprendre tous les textes contemporains sans m'occuper de Grégoire de Tours, qui est, comme vous le savez, un auteur qui écrit trois générations après la mort de Clovis. Et rien qu'en reprenant la lettre de Saint-Avit de Vienne, qui est la lettre contemporaine de l'événement. Elle a probablement été écrite quelques jours après le baptême. Rien qu'en reprenant cette lettre, j'ai été frappé par le fait que la traduction ne tenait absolument pas debout. Dès la première phrase, Avid de Vienne dit « Les partisans des schismes ont essayé de voiler votre perspicacité et n'y sont point parvenus, etc. etc. »
Les partisans.
Les partisans des schismes. Avid de Vienne est un homme qui connaît non seulement fort bien le latin, mais aussi le grec, et qui est le représentant le plus pur qui soit de l'école romaine de cette époque-là. Les traductions françaises qui avaient été proposées de sa lettre consistaient à dire « les partisans des hérésies ». Première absurdité, pourquoi traduire schisme par hérésie ? En bon latin, c'est une hérésie que de traduire schisme par hérésie. La différence est déjà très nette à cette époque-là. On appelle schisme une déchirure de l'unité et elle n'a pas forcément des motifs théologiques. Elle a plutôt des motifs au niveau du droit canon et au niveau
disciplinaire. Disciplinaire.
L'hérésie est, comme son nom l'indique, un choix particulier dans le dogme et dans la vérité révélée. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Deuxième point, peut-on parler des hérésies à l'époque de Clovis ? Il n'y en a qu'une, et non pas plusieurs, c'est la position homéenne choisie par les rois ariens à la suite du concile de Sirmium, imposé par Constance II et accepté par Ulfila, l'évêque qui a évangélisé les Goths et leur a fait adopter la position homéenne.
C'est l'arianisme.
C'est l'arianisme, donc il n'y en avait qu'une. Et ensuite, pourquoi avoir traduit par hérésie ? Parce qu'on était complètement obnubilé par le problème des Ariens, Visigoths ou Burgondes, et on n'a pas vu une autre situation qui était beaucoup plus grave, à savoir qu'il existe effectivement bien deux schismes. Le premier date de 484, l'empereur Zénon face au monophysisme, une autre hérésie qui est en sens inverse de l'arianisme. Et qui insiste à l'excès sur l'unique nature de Jésus-Christ, considéré comme essentiellement Dieu, et qui donc hypertrophie la divinité de Jésus-Christ au dépens de l'humanité. C'est l'inverse de l'arianisme. Ces monophysites sont de plus en plus puissants dans l'Empire romain d'Orient, et l'empereur Zénon cherche un accord avec eux. Et il n'a rien trouvé de mieux que de dicter à son patriarche de Constantinople un texte d'union entre monophysites et catholiques, dans lequel il passe sous silence la notion de nature, qui avait été pourtant soigneusement votée et précisée au concile de Chalcédoine le 31 décembre 455. L'évêque de Rome a alors immédiatement protesté dès que cet édit a été promulgué. D'abord parce qu'il est dû à l'initiative de l'empereur, et ensuite parce qu'il est contradictoire avec le concile de Chalcédoine. À partir de 484, un premier schisme existe donc entre l'évêque de Rome et Constantinople. Et ce premier schisme a duré relativement longtemps, il a duré quasiment jusqu'en 518. À propos du premier schisme, des discussions de plus en plus vives ont éclaté dans l'église romaine. Fallait-il ou non négocier avec l'empereur romain d'Orient et le patriarche Acas, alors même que celui-ci ne changeait strictement rien au contenu de l'édit de l'Hénotique. Et le pape Anastase II ayant négocié, sans céder sur le fond d'ailleurs, la chose est très complexe. En 498, il meurt subitement le 24 novembre. Et le clergé de Rome se réunit alors à ce moment-là pour savoir qui on va élire. Il est totalement divisé. Les uns sont partisans de la négociation à la manière d'Anastase II. Les autres sont partisans de l'intransigeance absolue. Ces derniers l'emportent, ont la majorité, élisent Symmac, qui est considéré comme le pape régulièrement élu. Mais une minorité refuse de reconnaître le vote de la majorité et élit à son tour un antipape, le diacre Laurent, qui lui est partisan de la négociation avec Constantinople. Il y a donc deux schismes, et le deuxième schisme est postérieur au 24 novembre 498. Donc rien que par l'analyse de la lettre d'Avit et par une traduction la plus stricte possible, nous sommes déjà obligés de dire que le baptême de Clovis a forcément eu lieu après 498, et non pas déjà après 496. Enfin, Pour d'autres raisons, l'étude des chroniqueurs Minora, l'étude du mouvement eschatologique qui existe à cette époque-là et qui est renforcée de plus en plus par le fait qu'il y a parmi les chrétiens une grande angoisse après la chute de l'Empire romain, et que certains font des calculs sur la date de la fin du monde, on est persuadé que la fin du monde aura lieu en l'an 500 après la mort du Christ. Et comme les habitudes romaines de donner aux années le nom du consul en cours, on s'aperçoit que l'Empire romain est déstructuré au point que on ne nomme même plus un consul pour dénommer telle ou telle année, et en 498, il n'y a pas de consul. On parle du poste consulat de Viator. Et c'est la preuve que le temps marche de travers, c'est fini, le temps va capoter, l'histoire va finir, la fin du monde est proche. Et il y a dans les chroniques, dans les petites chroniques, des gens qui écrivent « Cette année-là, des sots prétendent que la fin du monde est proche ». Donc, corps épiscopal, ou ce qu'il en restait dans le nord de la Gaule, a essayé de calmer ses angoisses et ses inquiétudes eschatologiques en essayant de donner un lustre particulier au baptême de Clovis pour dire « Mais non, pas du tout, la fin du monde n'est pas proche, quelque chose de nouveau va démarrer ». Et on fait exprès de prendre le 25 décembre 499 pour rassurer les esprits et faire en sorte que, lorsque l'an 500 arrive, un nouveau millénaire commence, la chrétienté est complètement renouvelée et c'est quelque chose de totalement neuf qui démarre.
Alors, je dis simplement dire que pour nos auditeurs qu'ils écoutent actuellement avec beaucoup d'intérêt et surtout d'attention, je l'espère, le professeur Michel Rouge, qui nous parle bien évidemment de Clovis, que nous sommes sur Radio Courtoisie et que l'on peut nous appeler au 46 51 00 85. Donc, pour la question de date, nous sommes à peu près, enfin, on pense que c'est plutôt 499 que 496, ce qui ne change d'ailleurs strictement rien à l'importance considérable de l'événement. Bien évidemment, si nous célébrons aujourd'hui le 15e centenaire, c'est parce qu'on a célébré il y a 100 ans le 14e centenaire et qu'il eût peut-être été un peu désordre de le célébrer à une autre date que 96. Voilà. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons avoir 3-4 années, nous allons pouvoir continuer à célébrer le Clovis.
Sur ce délai de 3 ans, nous avons de quoi en parler. Et en reparler sans cesse.
Alors, comme disait une personne que je connaissais, bon, on a fêté en 1896 le 14e centenaire. Le 13e centenaire n'a pas été fêté parce que c'était le directoire. Je pense qu'ils avaient d'autres choses à fêter. Et puis avant, en fait, on ne fêtait pas l'avènement de Clovis.
Non.
Sauf que, d'un certain point de vue, chaque sacre sous l'Ancien Régime se rapportait au baptême initial.
C'est une commémoration.
Le baptême faisait mémoire.
Mais en sacre par la
voilà,
suite,
un peu plus tard.
Mais la commémoration a commencé encore plus tôt, puisque lorsque Saint-Remi est mort, Thierry, le fils de Clovis, a immédiatement organisé une fête annuelle pour Saint-Remi. Donc la commémoration a commencé dès l'époque de Clovis.
Si je fais ça, c'est pour essayer de faire une espèce de transition, parce que nous avons reçu, bien sûr, des messages d'auditeurs, dont un d'un auditeur qui nous apostrophe extrêmement vertement, mais en les beaux catholiques que voilà qui ne croient pas la Sainte Ampoule.
Alors, ceci est un autre problème. Il faut rappeler que dans la liturgie paléochrétienne, liturgie qui a été supprimée par Charlemagne en 778-782, il était habituel que l'on pratiquât d'abord le baptême des adultes en très grande majorité. Et ce baptême des adultes se déroulait de la manière suivante. Il y avait la plongée après les réponses du néophyte au prêtre qui l'interrogeait, la plongée du néophyte dans la cuve baptismale, avec la bénédiction au nom de la Sainte Trinité, qui était le baptême proprement dit, puis deuxième temps, lui était donné le sacrement de confirmation, avec l'onction du Saint-Crème, une huile bénite qui servait en lui enduisant le corps aux épaules, à la tête, etc., signifié par là qu'on le recouvrait d'une espèce d'embrocation sportive symbolique, lançant le chrétien dans la vie pour affronter, tel un athlète, les difficultés de chaque jour et les maux qui pouvaient l'attaquer ou les démons qui pouvaient l'attaquer. Donc le sacrement de confirmation était donné immédiatement au sortir du baptême avec l'huile du Saint-Crème. Et troisième temps, il devait très certainement recevoir l'Eucharistie. Or, cette liturgie est allée en disparaissant de plus en plus. Les baptêmes des adultes ont fini par être abandonnés au profit du baptême des petits-enfants. Et à l'époque carolingienne, la liturgie paléochrétienne est supprimée, il n'y a plus que des baptêmes des petits-enfants, on oublie l'ancien système liturgique, et comme en 754 a eu lieu le premier sacre royal, organisé par le pape Étienne II dans la basilique Saint-Denis en l'honneur de Pépin le Bref, et que le sacre a été une onction de Saint-Crème sur la tête et le corps du roi. Il était déjà très facile, au souvenir de ce qui s'était passé autrefois, de confondre le baptême avec le sacrement, pardon, avec le sacre du roi.
Sacramentaire, enfin.
Qui est un sacramental.
Tal.
Voilà. Alors, du point de vue théologique, premier obstacle, la définition théologique du sacrement est déjà faite, mais la définition théologique du sacramental n'était pas encore faite. Et pour les contemporains, il était facile de confondre le sacrement de confirmation qui était donné aux adultes et qui ne l'était plus aux petits-enfants. Il était facile de dire Clovis a reçu l'onction du Saint-Crème, donc c'était un sacre. Et on a un texte liturgique de la fin du 8e siècle qui montre que déjà il y a la confusion entre baptême et sacre royal. L'opinion, par ailleurs, ne faisant pas la différence entre un sacrement et un sacramental, on considère que cela va de soi pour le roi, surtout à partir du moment où le roi reçoit toujours le sacre au début de son règne. Et de plus, Charlemagne, ayant nommé ses deux fils Clotaire et Clovis, ou si vous préférez Louis, c'est l'empereur Louis le Pieux, l'empereur Louis le Pieux a demandé de recevoir le sacre à Reims en 816. Donc le premier sacre de Reims a été célébré en mémoire de Clovis, dès 816. Donc ceci a accentué la confusion entre le sacre et le baptême. Mais il y avait en même temps déjà ce désir de commémoration qui faisait qu'on assimilait inconsciemment les deux phénomènes.
Il y a quelque chose d'assez... C'est une évolution assez, je dirais, presque biologique en fin de compte. Comment est-ce que je pourrais exprimer ça?
Il y a peut-être...
Ah, c'est monsieur Manchon-Rigaud, oui, qui voulait dire un petit quelque chose.
Préciser pour nos auditeurs, bien sûr, le baptême de Clovis n'est pas du tout un sacre, et au lendemain du baptême de Clovis, Clovis reste un guerrier franc, un guerrier barbare, un chef barbare, et il n'est pas du tout un roi sacré. Et la transformation du baptême de Clovis en un sacre, qui se fait, comme vous l'avez dit, au moment où arrive au pouvoir la dynastie carolingienne, est liée à une volonté de cette dynastie carolingienne d'appuyer sa légitimité en se rattachant à Clovis. Et dans la longue durée, nous avons été frappés, Pierre Chaunu et moi, de constater à quel point les quatre dynasties successives, qui font les quatre races, comme on disait sous l'Ancien Régime, qui vont se succéder à la tête du royaume, ont à chaque fois été soucieuses de se rattacher à la dynastie précédente. Les Carolingiens le font avec les Mérovingiens, et plus tard les Capétiens le font à plusieurs reprises avec les Carolingiens. Et Clovis, qui se trouve en début, finit par servir de légitimation à tout, nous aurons l'occasion de leur dire au cours de l'émission, et c'est dans ce cadre-là que se fait cette reconstruction qui est postérieure et qui est délibérée.
Rappelons que Clovis a donné en français Louis. Hein, Lodveg, Lodovicus, Lodois, Loïs, Louis. Hein, par conséquent, l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, et qu'on a appelé à tort Louis II, parce qu'il y a eu d'autres Clovis à l'époque mérovingienne, a été nommé sciemment avec le nom de Louis pour montrer absolument qu'il descendait de Clovis.
Le prénom le plus populaire dans toutes les dynasties.
Et de plus, il a pris Reims comme lieu du sacre, alors que le premier sacre avait eu lieu à Saint-Denis. Donc c'est une volonté délibérée.
Et une dernière petite chose qui peut peut-être être précisée aussi pour les auditeurs, c'est que bien sûr tout ça se fait avec l'appui du pape qui
a bien conscience que dans son intérêt, la dynastie carolingienne doit être consolidée, et en donnant cette onction en quelque sorte davidique, et dans notre livre nous insistons beaucoup sur ce point, qui renoue avec l'onction biblique, ça donne une légitimité extrêmement forte à cette dynastie qui va contribuer à pacifier aussi une partie de ce qui va devenir la France, un moment où la papauté est d'ailleurs très menacée par les Lombards et où le pape est véritablement à la recherche d'un appui.
Vous avez raison d'insister sur la notion de légitimité, parce que il faut préciser que dans les sociétés germaniques, un roi n'est respectable que s'il est vainqueur. Et s'il est vaincu, on peut l'assassiner. Donc l'Église, en généralisant le sacre, en quelque sorte voulu protéger l'État dans la personne du souverain, le rendre absolument intouchable, et il faut bien avouer que la solution qui consistait à rendre l'État légitime et l'État respecté de tous les sujets a parfaitement réussi, puisque la France est le seul pays où, de 792, dernière tentative de régicide contre Charlemagne, jusqu'à 1589, l'histoire de notre pays ne connaît pas une seule tentative de régicide. Donc l'Église a parfaitement réussi dans son désir de protéger l'État et de légitimer le pouvoir politique. Et il y avait là un maintien des deux sphères, l'État par rapport à l'Église, qui est une des constantes de notre civilisation.
Alors donc, un auditeur quand même, après celui qui nous apostrophait, nous allons tout de suite en parler, dit quel plaisir d'écouter le professeur Rouge. Je comprends que c'est bien agréable de vous écouter, puis on va encore vous écouter un petit peu, puis même en diffusion demain matin pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter ce soir, et puis les messages peuvent bien sûr nous être téléphonés au 46 51 00 85. Alors le dernier petit point que j'aurais souhaité, petit point, gros point, que j'aurais souhaité que vous ayez la bonté de nous expliquer, c'est l'affaire de la Sainte Ampoule.
Alors, l'affaire de la Sainte-Ampoule, nous n'en avons pas de traces avant un Hincmar, archevêque de Reims, qui est archevêque de 842 à 882, et c'est lui qui, dans la vie de Saint-Rémy, qu'il a rédigé tout à fait à la fin de sa vie, dans des perspectives pédagogiques, étant donné qu'il s'apercevait à quel point l'Empire carolingien avait du mal à tenir debout et à quel point l'État était menacé et par les invasions et par les guerres civiles internes. C'est dans cette vie de Saint-Rémy qu'il dit « Et nous avons trouvé dans la tombe de Saint-Rémy une ampoule dans laquelle il y avait du Saint-Crème qui était encore conservé, et c'est de ce Saint-Crème que nous nous servons encore pour le sacre des rois. Hein ». Donc Hincmar ne dit pas que on a vu lors du baptême de Clovis une colombe apporter la Sainte Ampoule. La première trace écrite, c'est à ce moment-là. Il n'empêche que cette Sainte Ampoule a joué un rôle capital par la suite, car elle a été un élément de continuité dans les sacres royaux, et vous savez qu'elle a été considérée par le conventionnel Rulle comme la chose la plus détestable qui puisse exister, et il a écrasé à coups de marteau devant la cathédrale de Reims cette ampoule dont un éclat a pu être sauvé et a été réutilisé lors du dernier sacre, le sacre de Charles X, en 1825.
C'est un symbole, je veux dire, cette Sainte Ampoule est un symbole qui permet de reproduire de règne en règne une certaine continuité. C'est un objet symbolique.
Et en même temps, une application de la phrase de Saint Paul, Omnis potestas Deo, tout pouvoir vient de Dieu. C'était une manière chrétienne de légitimer le pouvoir et de le faire respecter.
Que deux rois au moins n'ont pas été sacrés avec la Sainte Ampoule de Reims, Henri IV d'abord, puisque c'était aux mains de la Ligue, et je pense qu'on a trouvé quelque chose d'équivalent du côté de Marmoutier, si je me souviens bien.
Voilà, c'est ça.
Et puis Louis XVIII, qui lui n'a pas été sacré du tout, il n'empêche que ces deux rois étaient tout ce qu'il y a de plus légitime.
Quand tout même. À fait.
La force du symbole, de toute façon, apparaît de façon évidente dans le geste, justement, que vous rappeliez du conventionnel Rulle, qui fracasse cette ampoule sur le socle de la statue de Louis XV, sur la place Louis XV, devenue place nationale à Reims, à peine 9 mois après la mort de Louis XVI. Et c'est le signe fort de ce que représentait pour, y compris les adversaires de la royauté, ce produit en quelque sorte magique qui fabriquait les rois. Pierre Chaunu l'évoque en faisant une comparaison avec les révolutionnaires espagnols qui, en 1936, fusillent les hosties consacrées.
Ou les crucifix.
C'est une manière de rendre hommage aussi à la présence réelle. Oui.
Mais il y a plus important que la Sainte Ampoule, c'est Dieu. C'est lui qui constitue les empires, qui défait les puissants, qui élève les humbles, qui abaisse les orgueilleux, comme le chante le Magnificat. Et donc, mais c'est important d'avoir, parce que nous sommes des êtres humains, ce sont de purs esprits sur pattes, donc nous avons besoin, par nos sens, dont le Créateur nous a dotés, nous avons besoin de voir les choses. C'est très important. Et il y a des symboles qui sont très forts, et si le symbole contient quelque chose qui lui-même produit de l'effet, c'est encore mieux. Nous sommes bien d'accord sur cette affaire.
Tout chrétien a besoin de support matériel pour sa foi.
Et ça, je crois que c'est un des drames de voir, je ne dis pas l'Église, parce que l'Église, elle est divinement instituée, mais certains clercs s'éloignaient justement de la symbolique extrêmement riche, que ce soit au plan de la liturgie, que ce soit au plan de l'ensemble de la sacristie, comme on disait autrefois, parce que tout ça a un sens, et tout ça aide, enfin peut aider en tous les cas, à une meilleure compréhension des mystères qui sont célébrés. Alors, pour revenir à des choses peut-être plus terre-à-terre que ces grandes envolées mystique que nous avons. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs qu'ils se rassurent, bien évidemment, je ne voudrais pas présenter le professeur Rouche comme l'esprit qui nie toujours. 496, non, 499, sacre, non, pas de sacre. Saint-Ampoule, bœuf, bon, non, mais simplement, je crois que on ne perd rien, je l'ai dit déjà plusieurs fois, des centaines de fois à ce micro, et je l'ai écrit des milliers de fois dans ma vie, on ne perd rien à quêter la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres, bon, c'est un grand thème évangélique, mais c'est valable aussi dans toutes les disciplines de la science. Cherchons toujours la vérité. Les légendes sont pieuses, elles ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, pécamineuses, elles ne vous jetteront pas en enfer au milieu des fumigations de soufre, rassurez-vous. Mais c'est pas ça, l'histoire c'est autre chose. L'histoire peut faire des découvertes, les historiens d'ailleurs ont fait beaucoup de découvertes, en font certainement encore si Dieu le veut, et nous affinerons toujours notre connaissance du passé. Mais rien ne sert de mythifier le passé, je crois que au contraire, c'est encore plus beau. C'est-à-dire que la vérité est plus belle que la légende. Vous voyez, comme le personnage de d'Artagnan, là, on a reçu il y a quelques semaines Odile Bordas qui a fait un formidable livre sur d'Artagnan, mais la vie de d'Artagnan réelle est beaucoup plus intéressante que la légende de Dumas. Donc ça dépasse largement, la vérité dépasse la légende.
L'histoire est maîtresse de vie, et ça, c'est l'incarnation d'une croyance ou d'une foi qui permet de s'apercevoir si oui ou non un homme a été fidèle ou non à ce qu'il a affirmé. Mais être sa foi.
Tout à fait, ça c'est très important, c'est le témoignage qu'on donne également. Donc ceci pour rassurer nos auditeurs que non seulement ils peuvent, mais ils doivent se précipiter et lire votre ouvrage, parce qu'ils vont y découvrir énormément de choses. Ce qui est extraordinaire, il y a eu toute une série de discussions au début du commencement du moment où on a évoqué le 15e centenaire, il y a un an, deux ans, trois ans, les gens qui se font dire sur Clovis, on ne sait rien. Bon, puis en fait, on sait quand même beaucoup de choses, et de quoi quand même écrire un livre qui n'est pas un livre fait de remplissage et de bavardage, quand même, c'est quand même sérieux.
D'autant plus que les problèmes posés par la chute de l'Empire romain avec la guerre civile et la construction de l'édifice politique du royaume des Francs par Clovis sont des problèmes tout à fait fondamentaux et contemporains. Il y a toute une série de questions que nous nous posons aujourd'hui, qu'on se posait déjà à l'époque de Clovis, et c'est ça qui est intéressant.
Alors, j'ai une question pratique à vous poser, si vous acceptez d'y répondre, et puis ensuite, j'aimerais, pour faire une transition avec un petit débat que j'aimerais avoir avec M. Mansion-Rigaud, que vous me donniez votre sentiment. D'abord, un auditeur nous demande, parce qu'il est déjà au fait qu'il va y avoir un grand colloque universitaire à Reims, il dit, mais comment est-ce qu'il faut faire, à qui faut-il s'adresser pour s'inscrire à ce colloque?
Alors, le colloque va se tenir à Reims du 19 au 25 septembre, et il va comporter deux sessions simultanées, l'une avec une cinquantaine de communications concernant l'époque de Clovis, sa conversion, etc., et une deuxième session simultanée, l'événement et son interprétation à travers l'histoire jusqu'à la fin du XXe siècle. Tous ceux qui voudront y participer le pourront d'autant plus facilement qu'il y a deux salles, l'une de 750 places, l'autre de 350, et ils n'ont qu'à s'adresser à l'association Mémoire de Clovis à Reims, 1 place du cardinal Luçon, Reims, 1 place du cardinal Luçon, et l'organisation de l'association Mémoire de Clovis leur donnera tous les renseignements nécessaires pour pouvoir assister, soit en totalité au congrès, soit en partie, avec toutes les possibilités de choix selon leur disponibilité. Ce sera probablement l'un des plus grands congrès historiques de toute l'histoire du XXe siècle, puisque nous aurons plus de 100 participants, dont une cinquantaine d'étrangers, avec beaucoup d'universitaires européens et américains, etc.
C'est tout à fait, c'est extraordinaire quand même de penser que 15 siècles après, des centaines d'érudits, enfin au moins une centaine d'érudits vont se rassembler pour parler au cours de ces deux sessions. Donc je rappelle l'adresse, c'est Mémoire du baptême de Clovis, c'est l'association organisatrice. Le colloque est placé sous votre haute présidence, enfin direction, je ne sais pas comment il faut dire.
Mettons responsable.
Vous êtes le maître d'œuvre, comme on disait autrefois dans les cathédrales. Bon, donc Mémoire du baptême de Clovis, c'est un place du cardinal Luçon. Un place du cardinal Luçon, 51 100 Reims. Je n'ai pas le téléphone en tête, mais si vous souhaitez avoir le téléphone de cette association, eh bien vous avez qu'à m'appeler demain au 45 41 29 29 45 41 29 29,
ou faire le Minitel.
Voilà, ou faire le Minitel pour l'avoir. Enfin, demain après-midi seulement, parce que le matin, c'est qu'il y a quand même messe, c'est un jour de fête. Alors la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a aussi tout un débat qui peut prêter à polémique d'ailleurs, ou qui peut servir à des adversaires ou à des gens mal intentionnés, disons, pour ne pas être polémique, à enfoncer un coin dans la saine discussion historique. C'est la question la France comme nation née en 496. C'est un thème qu'il faut manier quand même avec beaucoup de prudence. Je dirais par contre, et c'est la question que je voulais vous poser, ne peut-on pas dire, sans être excessif, que le baptême de Clovis, en quelque sorte, marque le commencement d'une tradition étatique plutôt que nationale?
Alors, la question est d'autant plus délicate que l'expression vient du 14e centenaire et qu'elle correspond à l'état des connaissances historiques à la fin du 19e siècle, à une époque où l'on était persuadé que les nations ont existé de tout temps. Et aussi bien l'ordre laïque que l'ordre moral, aussi bien la gauche révolutionnaire que la droite conservatrice ou monarchiste, étaient au fond toutes les deux d'accord sur l'idée de nation. Et elles étaient persuadées que le baptême était la naissance de la nation France. Quand nous reprenons les textes, nous nous apercevons que, en réalité, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe. D'abord parce que Clovis résonne dans une optique qui est une optique résolument universaliste, l'optique de l'Empire romain, et en même temps l'optique de la catholicité. Donc, raisonner par nation n'est pas son propre, ça ne fait pas partie de ses cadres mentaux. Il songe ni plus ni moins qu'à reconstituer l'ancien Empire romain qui est un empire universel. Tout empire universel est un regroupement de ce que nous appelons aujourd'hui des nations. Par conséquent, la véritable postérité de Clovis, ce sont les baptêmes qui ont eu lieu en Europe au cours du 5e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Mais pour mieux préciser ce problème, je crois que la meilleure solution, c'est de voir ce qui s'est passé par la suite sur le plan politique. Étant donné qu'il a le culte de l'État, étant donné que pour lui la Respublica, l'organe politique chargé d'exercer le bien commun est l'un des avantages de la civilisation romaine. Clovis a cherché constamment à sauver l'État et à maintenir un gouvernement de type romain avec des fonctionnaires payés régulièrement, un code de droit et de loi romaine avec droit public, droit privé, etc. rigoureusement appliqué. Et de cette manière-là, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, si son rêve de reconstituer l'Empire romain ne s'est pas réalisé, on constate qu'il existe un royaume des Francs, que ce royaume des Francs petit à petit prend conscience de lui-même, et que lorsque en 1204, le roi Philippe Auguste abandonne son titre de Rex Francorum, roi des Francs, pour le titre de Rex Franciae, roi de France, effectivement, la France existe à ce moment-là. Donc, pour être le plus exact possible et le plus juste en fonction de ce qui s'est passé, ce qu'il a fait conserver, réapparaître, refonder, c'est l'état de droit romain. Et à partir de cette conservation et de cette résurrection de l'état de droit romain, il a créé un organisme politique d'un type nouveau, dont l'accouchement a lieu en 1204. Par conséquent, si l'on voulait être très juste, il serait plus juste de dire conception de la France sur une longue gestation de 7 siècles et au bout de 7 siècles, naissance effectivement, accouchement effectivement
de la nation
France, ou plus exactement du royaume des Francs.
Du royaume des Francs.
Je préfère réserver le terme de nation avec son sens tel qu'il est apparu à la Révolution française.
Mais nous pouvons tout de même dire que la France à la plus vieille tradition étatique d'Europe.
Ah, tout à fait.
Voilà, nous pouvons soutenir ça sans tomber dans des travers.
Tout à fait.
C'est très, très, très important. M'est avis que la notion d'État est une notion qui mérite aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, d'être approfondie.
Oui, tous les textes.
Peut-être plus que celle de
la. Tous les textes de l'époque, quand ils parlent de l'Empire romain, disent toujours Res Publica. Et c'est ça qui est très, très intéressant, c'est l'organe du bien commun.
Alors, vous avez été très écouté de certains de nos auditeurs, mais simplement entendu d'un auditeur facétieux qui dit que il y a eu des tentatives de régicide contre les rois, tout de même, Henri IV, Louis XV. C'est exactement ce qu'a dit le professeur Rouge. Il a dit que du 8e siècle jusqu'à 1589, il n'y a pas eu tentative de régicide. Alors, 1589, c'est Henri III, puis Henri IV, donc ça tombe pile, et puis ensuite Louis XV, et puis.
Voilà. Nous sommes d'accord.
Alors, je me tourne vers Monsieur Rigaud pour lui dire peut-être ce qu'il ressent déjà des propos qui ont été tenus ici et des échanges d'idées que nous avons eus autour de ce micro.
Ben d'abord, je les ai écoutés avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et je remarque que notre ouvrage, qui est le fruit d'un long dialogue avec Pierre Chaunu, contient beaucoup d'éléments. Même si le livre est dans sa structure et dans sa forme et aussi dans son sujet très différent, beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout en contradiction avec ce que dit Michel Rouche, même si nous avons évidemment une approche très différente de cette commémoration. D'abord parce que nous avons appréhendé cette commémoration en n'étant pas des spécialistes, ni Pierre Chaunu, ni moi, encore que Pierre Chaunu
soit spécialiste alors, de tellement. Je vous présente, je ne vous ai pas présenté, souvent vous êtes maître de conférence à Paris contemporaine à Paris-Sorbonne.
Voilà. Et nous avons donc une approche qui est différente, et je dirais que nous avons laissé de côté tout un tas de débats qui sont au cœur des travaux des médiévistes et pour lesquels nous avons le plus grand respect, tel que celui que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir la date de 496-498. Les médiévistes ont en effet fait de très bons travaux là-dessus et je veux en profiter pour rendre hommage au livre du professeur Rouche qui a l'immense avantage de reproduire les textes avec leurs traductions, avec leurs commentaires, et c'est vraiment quelque chose qui rend votre livre irremplaçable. Nous avons, puisque nous avons écrit notre livre avant la parution du vôtre, nous avons beaucoup utilisé un livre qui reste un ouvrage fondamental, qui est le livre de Georges Tessier, qui était paru chez Gallimard en 1964, et qui contient énormément de choses fondamentales, et qui a servi pour nous de base. Là-dessus, nous avons eu donc une approche différente, et plutôt que de nous intéresser au personnage de Clovis tel que l'étudient les médiévistes, nous avons essayé de suivre le mythe de la reconstruction de Clovis en étant frappé par la permanence de Clovis tout au long de notre histoire, et nous parcourons ainsi, au cours de notre dialogue, promenade à travers l'histoire, 15 siècles de l'histoire de la France, de Clovis, en suivant un certain nombre de personnages importants de l'histoire, et nous terminons sur un personnage collectif, qui est le Poilu de Verdun, et bien sûr, le clos notre livre, cette évocation de l'incendie de la cathédrale de Reims, le 19 septembre 1914, dont je crois on peut insister sur l'impact émotionnel que ça a eu dans l'ensemble de la population française, d'autant plus que La cathédrale avait été transformée en hôpital et bien sûr ça a été perçu comme un drame épouvantable, mais symboliquement la France était atteinte aux yeux de tous, dans son cœur, dans son intégrité, aussi bien sûr pour je dirais la France de l'armée catholique et royale qui voyait une sorte de réédition du Bris de la Sainte-Ampoule, mais également pour la France républicaine, pour l'armée, les soldats de l'an 2 qui voyaient la France atteinte au cœur d'elle-même, et puis aussi parce que Reims était l'une des dernières grandes barrières protégeant Paris. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons tenu à mettre en couverture cette cathédrale de Reims en feu. Le dessin d'ailleurs a été effectué par Huguette Chaunu, la femme de Pierre Chaunu.
Il est, ma foi, fort bienvenu.
Il est fort bienvenu.
Alors peut-être je vais donner une petite précision parce que je ne l'ai pas fait. Je manque ce soir, je suis vraiment, c'est lamentable. Bon, votre livre ça s'intitule donc Baptême de Clovis, Baptême de la France, de la religion d'État à la laïcité d'État, voilà, et c'est publié chez Ballant, comme la moindre des choses.
Avec un sous-titre.
On va parler peut-être du titre parce que c'est un titre aussi qui peut prêter à polémique. Moi, je dirais à saine discussion. À saine discussion. Encore que nos adversaires aiment bien s'insinuer dans ce genre de débat que nous pouvons avoir entre nous. Alors, baptême de Clovis, baptême de la France. C'est dit baptême de Clovis, virgule, baptême de la France. Sont-ce deux choses différentes ou les liez-vous dans...
Je vous ségré d'attirer mon attention sur le titre. En effet, il y a différentes choses à dire. Alors d'abord, baptême de Clovis, baptême de la France. Le titre, je dirais, suscite la polémique, puisque je crois que dans toute cette avalanche d'articles que nous lisons dans la presse depuis 6 mois, que nous allons lire encore, cette adéquation établie entre le baptême de Clovis et le baptême de la France est précisément ce qui suscite parfois le plus l'irritation. Nous en avions bien conscience. Alors je crois que nous avons sur ce point une position très claire, c'est-à-dire que je crois qu'il faut accepter reconnaître que le baptême de Clovis n'est pas l'événement unique autour duquel s'est liée l'identité, s'est nouée, s'est créée l'identité nationale, mais c'est néanmoins un événement qui est inséparable de la constitution de l'identité nationale, simplement par la persistance de l'évocation de ce baptême tout au long de l'histoire de France, y compris l'histoire contemporaine, puisque précisément nous sommes réunis ce soir ici pour en parler.
Pour en parler.
Nous sommes écoutés par un grand nombre d'auditeurs.
Que beaucoup de personnes dans ce pays polémiquent au sujet d'un événement qui s'est passé il y a 15 siècles.
Et pour
c'est unique dans l'histoire du monde, parce qu'aucun autre pays ne ferait une chose pareille, mais il n'y a que les Français pour faire
bien
ça.
Sûr. Et pour revenir d'ailleurs sur la victoire de Tolbiac que vous évoquiez tout à l'heure, je dirais que si pour nous, qu'elle ait lieu en 496 ou en 490...
Elle a lieu en 496.
Et là, je dirais que de toute façon, là n'est pas l'essentiel. Les travaux, comme vous le rappeliez, les travaux plus récents soulignent qu'elle a probablement eu lieu aux alentours de 498-499, mais de toute façon...
Le baptême.
Mais je dirais que de toute façon, là n'est pas vraiment l'essentiel, mais ce qui est certain, c'est que durant cette période-là, entre 496 et 498-499, on assiste à une montée en puissance considérable du royaume franc. Après la victoire de Tolbiac, de façon tout à fait claire, Clovis et avec lui les Francaliens acquièrent le leadership des royautés, royautés germaniques du nord de la Loire. Et à partir de ce moment-là, les Francs ripuaires sont les obligés des Francaliens autour duquel va se constituer le royaume franc et d'où va sortir la stirpe, la souche de la royauté française. Donc ça, c'est un point qui est très important. D'autre part, l'autre chose très importante, c'est évidemment ce baptême qui va inaugurer ce lien fort entre le pouvoir royal et l'Église catholique. Pierre Chaunu préfère le terme de chalcédonien, puisque catholique n'a pas grand sens à cette époque-là, et même bien après.
Le terme est rigoureusement et continuellement employé au 5e et 6e.
Vous savez, au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc dit pas qu'elle est catholique, elle dit qu'elle est chrétienne. Le terme de catholique a un sens clair à partir de la Réforme. Alors,
depuis Ignace d'Antioche, jusqu'au VIe siècle, il est constant.
Oui, en revanche, ce qui est très important, c'est de dire que la France devient chrétienne chalcédonienne à ce moment-là, dans un contexte où il y avait la fameuse hérésie arienne, dont la France est épargnée en grande partie, parce que Clovis se rallie au christianisme chalcédonien. Et donc c'est un point qui est très important.
Point capital.
Et il est évident que dans toute l'histoire des rapports entre l'Église catholique et le pouvoir royal, plane à l'arrière-plan l'image de Clovis. Je prendrai un seul exemple qui est l'affaire de la Régale que nous évoquons dans notre livre, qui intervient bien plus tard, puisque là nous sommes dans les années 1680, enfin ça commence dans la fin des années 1670 et jusqu'au début des années 1690, et qui a été un fait très important, puisque ça aboutit à la déclaration des quatre articles de 1682, qui devient la charte véritable de l'Église gallicane. Or, ce droit de régal, qui était un droit dont disposait le souverain français de disposer des revenus
des abbayes vacantes, des évêchés vacants,
eh bien, c'était à ce moment-là, et rappelé que ce droit existe depuis Clovis. Donc c'est un signe de la permanence de Clovis dans les rapports de l'Église et de l'État. D'un point de vue politique, on pourrait évoquer d'autres choses. Par exemple, au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a ce grand débat autour des travaux de Boulainvilliers sur l'origine franque de la noblesse, eh bien, Boulainvilliers, qui trouve d'ailleurs en partie l'appui de Montesquieu, évoque à nouveau Clovis, et cette noblesse qui souhaite faire contrepoids au pouvoir royal évoque Clovis et champs de mai, les fameuses réunions des guerriers francs, qui sont perçues et décrites un petit peu comme le prémisse des états généraux. Donc c'est dire...
Là, il se trompe sur le plan historique.
Tout à fait. Alors
que Talleyrand, le 8 octobre 1789, quand il propose la vente des biens du clergé, se place dans la ligne directe de l'affaire de la Régale. Et sur ce plan-là, Talleyrand, sur le plan historique et sur le plan juridique, a totalement raison.
Mais il est évident que cette reconstruction du baptême de Clovis et de l'image de Clovis se fait souvent au prix des anachronismes les plus évidents. De la même façon, et les travaux de Colette Beaune, auxquels je rends hommage, parce que son livre qui est énormément cité en ce moment, et parfois pas, à mon avis, suffisamment présent dans les librairies et aussi dans les médias, aurait elle a fait un très beau livre qui s'appelle « Naissance de la nation France », dans lequel elle analyse aussi cette permanence et reconstruction constante de l'image de Clovis, qui est notamment, en particulier au XIVe siècle, XVe siècle, identifié à Saint-Louis. Et on passe Clovis, qui a, dans un premier temps, été décrit comme un preux chevalier. Or, on sait à quel point les mœurs politiques et de la vie quotidienne du haut Moyen-Âge sont très éloignées des lois de la chevalerie, qui sont bien postérieures, qui datent du tournant de l'an 1000. Eh bien, ce Clovis, qui était un preux chevalier, devient presque un pieux moine lorsqu'il est identifié à Saint-Louis. Et ça, c'est quelque
ce qu'on
chose
qu'on appelle des pieuses légendes.
Voilà. Alors, je voudrais néanmoins préciser une chose à aucun moment Pierre Chaunu et moi ne voulons réduire la figure de Clovis. Non, d'abord parce que nous utilisons le mot mythe. Dans son sens le plus noble, tout le monde sait, les travaux de Mircea Elias le montrent bien, que les mythes sont porteurs de réalité et expriment même parfois le cœur d'une réalité. Et qu'est-ce que c'est que la construction d'une nation, si ce n'est précisément un mythe, d'une part, et d'autre part, nous ne relativisons pas du tout le poids de Clovis comme personnage historique, d'abord parce qu'à l'évidence c'était un guerrier très valeureux, c'était un extraordinaire meneur d'hommes, et pour passer à la postérité 15 siècles après, il faut quand même pas, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, et si l'histoire a retenu le nom de Clovis et pas le nom de Pharamond, il y a bien une raison. Hein. Donc on ne relativise...
Peut-être parce que Pharamond n'a jamais existé.
On ne relativise... Oui, mais s'il a été le premier de cette dynastie mérovingienne, oui, c'est bien parce qu'il y a une raison. Et d'autre part, à l'évidence, c'était, même si on ne sait pas très bien son niveau de culture, on ne sait pas très bien s'il faisait, il savait très bien le latin, enfin toujours est-il que ça a été un redout... Ça a été...
Dès le tribunal même.
Enfin, ça, je veux dire, on n'a peut-être pas énormément de sources qui nous
La lettre de Rémy, le
oui,
dit
mais
bien.
Je crois que vous soulignez très bien dans l'un de vos commentaires qu'on sait assez peu de choses sur le niveau culturel de la cour de Clovis. Donc, je dirais que là-dessus plane un certain. Plane quand même un certain doute. On ne sait pas exactement par qui il était entouré. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il était épaulé par les scribes, par des fonctionnaires. Et l'une des grandes habiletés politiques de Clovis, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois fort bien, c'est d'avoir su se couler dans le moule de l'administration de l'Empire romain et d'avoir toujours placé son action dans le sens d'une continuité, pas d'une rupture. Et en cela, il inaugure cette grande continuité dans laquelle va se placer pendant 15 siècles la monarchie française.
Et d'avoir posé des jalons extraordinaires.
Tout à fait.
Ça, c'est une science politique
il est, Clovis a l'exclusivité d'être à l'origine de beaucoup de choses dans l'histoire de la France, et ça, c'est un fait.
L'interprétation de l'histoire de Clovis est tout aussi importante que l'histoire
bien humaine. Sûr, bien sûr. Voilà, c'est à cela que nous avons voulu nous intéresser.
Alors, une petite question d'une auditrice. Que pense le professeur Rouge du Clovis de Godefroy Court, c'est un belge peut-être, publié à l'occasion du 14e centenaire?
Ah, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai lu et relu en long et en large. Godefroy Court a fait un effort d'érudition prodigieux en 1896. Il a parfois été trop impressionné par l'érudition allemande, au point d'accepter les décisions des érudits allemands concernant la fausseté de la vie de Sainte-Geneviève et du testament de Saint-Rémy, dont on a retrouvé aujourd'hui le véritable caractère et dont on a prouvé qu'ils étaient authentiques, ce qui fait que c'était déjà un ouvrage qui avait fait un progrès considérable en matière de connaissances historiques, et je m'en suis beaucoup servi.
Merci professeur Rouge, je rappelle que vous êtes venu parler ici, enfin juste parler un peu, parce qu'il faudra que vous reveniez encore nous entretenir toutes ces choses, nous avons encore beaucoup de choses à dire sur Clovis, donc d'un très beau Clovis, enfin vraiment le Clovis qu'il faut lire, publié aux éditions Fayard, et puis merci également à Éric Mancion-Rigaud d'être venu, représentant l'association Pierre Chaunu et Éric Mancion-Rigaud, si je puis m'exprimer ainsi, pour un autre très beau livre de réflexion aussi, de méditation sur la France, sur cette... cette personne tout à fait exceptionnelle qui s'appelle la France. Ça, le livre s'appelle Baptême de Clovis, Baptême de la France. C'est publié aux éditions Ballan. Voilà, je crois que pour tous nos amis à l'écoute, eh bien, ils ont là deux excellents livres. Il y en aura d'autres aussi, de réflexions sur la signification de cette grande célébration que nous allons tous vivre ensemble et dont j'espère nous allons vivre. Merci beaucoup, chers auditeurs. À mercredi prochain, si vous le voulez bien. Et en attendant, évidemment, que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, puis par Daniel Amiche, assisté de Pierre-Emmanuel. Document d'archives du 15 mai 1996, rediffusé dimanche 22 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Votre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs.
Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.